Bon midi tout le monde, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1, c'est l'émission On en jase avec Jeff Fortin, Pascal CV. On a le caucus avec Antonine Iaccarini qui s'en vient. Mais avant, pour ceux qui étaient à l'écoute, on vient d'avoir une entrevue très touchante dans le segment Open Mic, qui fait partie de l'émission du Point de Max, avec entre autres une personne extraordinaire, la docteure Julie Laflamme, qui est pédiatre aux soins palliatifs du Centre Mère-Enfant, le Centre Mère-Enfant-Soleil du CHU de Québec, et également avec la maman de Jaylen, qui malheureusement, à l'heure actuelle, vit avec une tumeur au cerveau qui fait en sorte que Jaylen dort à peu près 20 heures sur 24. Et là, il était là en studio, mais il est en studio en train de dormir dans les bras de sa mère, alors qu'on faisait l'entrevue. Chapeau à Audrey Pinchot qui a mené de main de maître cette entrevue. Franchement, un moment très touchant et émouvant à Boulevard 102.1. Si vous voulez aller réécouter cette entrevue, bien, ça va se passer sur le blvd.fm. Vous pouvez également nous écouter sur la web radio. Pascal CV, comment tu as trouvé ce moment de radio?
C'est toujours un peu difficile, honnêtement, parce que tu écoutes ça et tu écoutes des vrais gens dans vraie vie, dans des choses que nous, on vit pas, puis tu sais, on peut se lever puis on être marabout parce qu'il nous manque de café versus des gens qui ont de réels combats. C'est sûr que chacun a sa vie puis ses combats. Ce que je veux dire, c'est que ça nous ramène pas à peu près sur l'essentiel de la vie, là. Une maman qui vient ici avec toute la vulnérabilité du monde nous raconter son histoire puis l'histoire de sa famille, de son fils pour aider à une bonne cause, on s'entend. Puis il le fait de façon déchirante. Puis pourquoi il dort tout le temps? Bien, c'est la tumeur dans son cerveau qui grossit puis qui va s'accoter sur des endroits du cerveau qui sont reliés à le fait d'être endormi. Donc, c'est difficile de voir que des parents, tout ce qu'ils vont connaître avec leurs enfants, c'est la maladie, mais de les voir extrêmement forts là-dedans aussi. Moi, je trouve que cette journée-là fait tout son sens, puis je suis très heureuse que toute l'équipe de Leclerc Communication contribue comme ça, peut-être à changer le quotidien d'une famille comme celle qu'on vient d'entendre.
Exactement, la docteure Julie Laflamme qui va venir nous parler tout à l'heure dans l'émission. Antonine, vas-tu serrer ton petit pouls dans ses bras quand tu vas aller chercher à l'école tantôt?
Ah, toujours, en fait. Là, à chaque fois que tu vois des enfants malades, on dirait que... C'est fou comment ça relativise nos problèmes. Comme tu disais, Pascal, ça remet tout en perspective.
En effet, hier soir, moi, j'avais la chance de coacher mes garçons au hockey. Les deux jouaient un match, donc un à la suite de l'autre. Alors, mon grand de 16 ans, Edouard, mon grand de 18 ans, Elliot. Puis, des moments privilégiés, je m'en rends encore plus compte aujourd'hui. Et si vous voulez contribuer, justement, à cette journée et rendre la vie encore plus paisible pour malheureusement ces enfants qui sont en fin de vie, qui sont en soins palliatifs. Eh bien, c'est la journée des vœux de Noël à Leclerc Communication. On en est à notre 14e année et au cours des 14 années, Pascal et Antonine, c'est 685 000 $ qui ont été remis à l'équipe de la docteure Julie Laflamme et Maryse Frenette. Ces dons sont significatifs parce que ça permet d'offrir de nombreux services aux enfants qui ne sont pas couverts par la fameuse assurance maladie ou par le gouvernement. Et là, on parle vraiment de soins qui font du bien aux enfants. Soins de massothérapie et d'art-thérapie. Des ateliers de sculpture de main. L'as-tu vu ça, Pascal, quand tu es allé visiter à la maison?
Oui. C'est hot, hein? Puis c'est beau aussi parce que ça rassure. Tu sais, la sculpture de main et les photographies professionnelles, ça rassure souvent les enfants qui disent « Est-ce que vous allez nous oublier? » Plus comme quelque chose de concret auquel ils participent, puis c'est encore plus touchant, mais c'est aussi très poignant. Tu vois ça, puis tu dis « Colin, OK, il y en a beaucoup d'enfants qui nécessitent cette aide-là. »
Tellement. Trousse de confort, cérémonie commémorative et lit extensible humano également, qui permet aux parents de passer les derniers moments avec son enfant
dans le même lit, pas dans un intervalle de lit, chaise et tout ça. Non, de vraiment se coller. Puis,
pas de bonbon entre les deux, là.
Un colleux, là, une colle là, à n'importe qui. Là. Il paraît que c'est vraiment bon pour calmer le système nerveux puis tout ça. Puis un colleux 10 secondes fait des merveilles auprès de l'être humain. Imaginez ces parents-là qui ont leur dernier moment avec leurs enfants puis qui se disent « OK, là, peut-être que la plus belle chose qui va m'être arrivée puis le plus beau souvenir, ça va être d'être collé avec mon enfant dans un lit à l'hôpital parce qu'il n'y a pas le choix d'être à l'hôpital puis d'être sous surveillance. Mais au moins, on va dormir ensemble. Il n'y a pas grand-chose de plus paisible que de dormir, de se reposer. » Puis là, ils le font. Puis, tu sais, souvent, tu dis, hey, pourquoi c'est pas couvert? Moi, je me pose encore la question des fois sur.
Pourquoi c'est pas couvert?
Pourquoi c'est pas couvert? Puis je sais, tu sais, nos taxes, nos impôts, de ça. Mais tout ça, ce qu'on vient de nommer, c'est ça qui fait la réelle différence. Des soins, c'est normal dans le sens où tu es malade, tu es pris en soin à l'hôpital et tout ça, mais ça reste un peu froid. Tout ce qu'il y a à côté va rendre ça plus confortable et humain.
Non, c'est un excellent point. Et cette année, on a un projet spécial aussi, c'est la bucket list. Puis la bucket list, moi, je l'ai vécu avec Jalen parce qu'il a fait une exposition de ses dessins de robots. Jalen dessine des robots. Il les a fait encadrer. Il a fait une exposition. Là, je ne veux pas me tromper dans le nom, mais il me semble que c'est à l'espace Beauchemin qui est dans le vieux, qui est dans le petit Champlain. Et je suis allé pour en acheter un cadre. C'est Val qui a eu cette idée-là. Elle a dit, on s'en va l'encourager, on va aller acheter un cadre. Puis il est accroché dans la chambre du petit Gabou. Et c'était magique de le voir à ce moment-là parce qu'il était vraiment plus éveillé que ce qu'on a vu aujourd'hui. Il a même fait danser ma blonde.
Oh.
Donc, on a jasé ensemble, m'a tapé dans la main, il m'a parlé de sa passion pour le hockey.
Tu vois comment c'est cruel parce que ça évolue extrêmement vite en maladie.
Parce que ça, c'est un mois.
C'est fou, la maladie évolue vite. Fait que chacun des moments, mettons une heure pour eux, c'est peut-être un trois jours. Fait qu'il faut que tu dans le sens où il faut que tu vives en trois jours quelque chose. Puis ça ramène à l'essentiel. Mm-hmm. Je les vois, sont collés, chaque seconde compte pour témoigner leur amour, pour essayer d'avoir ces souvenirs-là. Puis moi, dans cette journée des vœux de Noël, à un moment donné, je me suis renseignée, je me suis dit, tu sais, tous nos partenaires, là, les gens qui achètent la publicité sur nos ondes sont appelés pour dire, voulez-vous acheter des campagnes? Aujourd'hui, c'est la seule journée où vous pouvez en réserver à rabais, puis avec les meilleurs prix. Puis certainement, c'est une partie des profits qui s'en va pour la cause pour laquelle on le fait. Mais tous ceux qui n'ont jamais investi en publicité, c'est aussi le temps, un, de voir l'impact que ça va avoir et tout ça. Mais automatiquement, en appelant aujourd'hui au 418-682-8420, puis s'il y a quoi que ce soit, textez-nous, on vous renvoie le numéro.
Oui.
Bien, vous avez un impact dans votre communauté, puis vous avez un impact envers ces familles-là, en plus de pouvoir afficher votre entreprise. Puis dans les dernières années, à chaque fois que je prenais le micro, je me suis dit, si toi, t'es juste une personne funky, puis tu as le goût de souhaiter joyeux Noël à tous tes proches, à tes amis, tu veux faire une campagne publicitaire comique, tu veux, mais tu n'as pas d'entreprise, tu peux aussi acheter la publicité sur nos ondes puis faire rire le monde. Puis
pas cher, 600 $ pour 30 messages.
Fait en passant, si ça vous intéresse, vous mettrez ça sur mon dos. Si quelqu'un vous obstine, mettez ça sur mon dos. Dites, c'est la faute de Pascal, elle nous a dit qu'on avait le droit.
Ouais, mais ils vont choisir ta voix en plus, c'est ça qui va arriver.
Peu importe, ça, c'est mon cadeau puis ça va me faire plaisir, mais si vous êtes le moindrement créatif, il y a quelques années, je salue une personne que je connais pour les 10 ans d'amour avec sa blonde a acheté une campagne.
Wow, c'est
puis
donc
dit,
bien beau,
moi,
ça.
Je sais que ça sert à une bonne cause, puis ça va faire rire ma blonde.
Ouais.
Pensez-y, des jokes de bureau,
Il
y a quelque
chose
là.
Il y a quelque chose à faire. Puis si vous êtes une entreprise, vous n'avez jamais fait de publicité radio, ça vaut la peine. Moi, l'année dernière, j'ai notamment mon ami Chloé, agente immobilière, qui en a acheté. Elle dit, écoute, Jeff, le téléphone n'a jamais autant sonné.
Ça fait la différence, là.
Donc, ça fait une différence.
C'est sûr, c'est un contact direct.
J'ai mon ami Caro qui a des cliniques privées pour la femme en santé. Elle va être rendue qu'elle va ouvrir sa cinquième. Parce qu'elle dit, j'en avais deux, puis après vos publicités, écoutez, les gens de Portneuf m'appellent et me disent, hey, on en veut une dans notre coin.
Que ce soit une campagne pour souhaiter joyeux Noël à votre clientèle, à vos collègues, peu importe, que ce soit une campagne pour une pénurie de main-d'œuvre, que ce soit une campagne pour un nouveau service, pour une nouvelle succursale, pour peu importe, ça va servir à ça. Puis aujourd'hui, vous n'avez pas à vous casser la tête en disant, ben là, ça va être pourquoi? Non, non.
Non.
Aujourd'hui, la seule chose que vous avez à faire, c'est en réserver une, parce que c'est uniquement en ce 29 octobre que vous pouvez avoir ce rabais-là, si on veut, et qu'on peut mettre de côté une bonne partie des ventes de cette journée-là pour le CHU de Québec, puis les soins palliatifs pédiatriques du Centre Mère-Enfant.
Salut Mickaël qui nous dit « Salut, c'est Mickaël de Pèlerin Inspection et cette année encore, je prends de la publicité chez vous. »
Je le connais bien, c'est un bon auditeur.
Ouais. Pas pour avoir des contrats, mais pour donner à la Fondation. Ben, merci Mickaël, en effet. On a beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui nous écrivent comme quoi ça a été un moment très touchant en ondes. Antonine, je te proposerais pour débuter le caucus justement qu'on continue dans cette thématique-là parce qu'il y a une politicienne qui a vécu des moments très difficiles et c'est Caroline Proulx.
Absolument. Donc, la ministre des Aînés qui a annoncé il y a quelques semaines qu'elle allait prendre une pause.
Ouais.
Et à ce moment-là, elle avait expliqué que c'était parce qu'elle n'avait pas encore terminé un peu de passer à travers le deuil de sa maman. Elle était très, très proche de sa mère. On en avait parlé un peu à ce moment-là. On pouvait s'interroger sur comment, avec nos politiciens, des fois, on leur met la pression de toujours aller bien, de ne pas nécessairement prendre de vacances,
Exactement.
Etc. Et on se réjouissait un peu de voir qu'en 2025, on acceptait plus ça, que c'était moins un tabou.
Oui.
La les problèmes de santé des politiciens, mais aussi les enjeux de santé mentale et les enjeux plus personnels. Bien, Caroline Proulx a donné une entrevue à TVA cette semaine où elle
une entrevue très poignante là, avec Paul Larocque.
Très poignante, dans laquelle elle explique un peu plus en détail qu'est-ce qui s'est passé avec sa mère. Et honnêtement, ça rentre dedans. Là.
Oui, je vous fais jouer l'extrait justement où elle raconte comment l'événement est arrivé.
Vous répondrez ce que vous voulez, mais il faut remonter quelques mois avant, dans le temps des fêtes, corrigez-moi, vous avez perdu votre mère. Dans des circonstances troublantes.
Violentes.
Épouvantables.
Violentes.
Ouais.
31 décembre, comme à chaque année, on va fêter l'anniversaire de ma petite Jeanne. Je suis grande-tante 6 fois avec ma mère. Et puis on l'installe au sofa avec sa tablette, son chapelet, son café décaféiné. Pour aller jouer dehors, puis rentrer dans la maison peut-être une heure et demie plus tard. Je suis la première à entrer dans la maison. La maison est toute vitrée, puis je vois que mamie est pas au sofa. Fait que je rentre dans la maison, puis je fais « Mamie! » Puis j'avance dans la maison. Ma soeur Christiane que tu connais, mon neveu, me suivent. Je m'en vais à la toilette de l'étage. Puis là, mamie, il est un peu plus inquiet. Je tourne le coin qui descend aux marches en bas. Puis c'est littéralement une scène de crime que je vois là. C'est une mare de sang en bas. Puis je me mets juste à hurler de tout mon corps.
Ouf, imagine, Antonine, retrouver un être cher, ta mère comme ça, dans le bas de l'escalier, dans une mare de sang le 31 décembre.
On peut comprendre que c'est un événement qui doit être assez traumatisant. Même quand c'est quelqu'un que tu connais pas, je veux dire, voir une scène comme celle-là, quelqu'un témoin d'un accident, des gens qu'on connaît pas, ça peut affecter les gens. Imaginez en plus quand c'est quelqu'un que vous aimez, qui fait partie de votre vie. Bon, évidemment, il y a eu les funérailles et tout ça il y a déjà quelques mois. Elle est restée en poste. Il y a eu un remaniement ministériel. À l'époque, elle était ministre du tourisme et elle est devenue ministre des aînés. Nous, ne sachant pas tout le monde, les circonstances de la mort de sa mère, ça nous a frappé plus qu'il faut. Mais maintenant qu'on comprend dans quel rôle elle s'est retrouvée, c'est quand elle a commencé à... premièrement, elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas capable de faire son travail. C'est-à-dire qu'elle allait faire des annonces ou elle allait dans des événements.
Elle pleurait tout le temps.
Elle pleurait tout le temps. Elle avait des réactions physiques à...
Souvent, c'est un choc post-traumatique.
Donc, c'est un choc post-traumatique vraiment qu'elle avait. Et en plus, ta mère, qui était une personne âgée, tout ça, que tu as retrouvé dans des circonstances épouvantables, et là, tu te retrouves à visiter des maisons pour aînés, des maisons de soins palliatifs. Donc, c'est encore plus à même de venir réveiller, en fait, ce traumatisme-là au quotidien. Et c'est ainsi qu'elle a pris la décision de se retirer pour finalement se soigner.
Exactement. Dans l'entrevue, elle explique 4 moments clés. Je vous fais jouer l'extrait sur le 4e moment où là, elle s'est dit « OK, c'est assez, je dois prendre une pause ».
Puis le dernier événement, c'est l'inauguration d'une maison des aînés à Gatineau avec le premier ministre.
Ah ouais, OK. Moi, j'en ai entendu parler. Ouais.
Et là, je visite les aînés. Et là, c'est une intensité à 9 sur 10. Je suis dans l'ascenseur, Paul, puis je suis tellement gênée puis honteuse. Je donne des coups de pied dans l'ascenseur tellement je suis fâchée après moi de ne pas être capable
de composer avec...
De maîtriser ça, tu sais. Je veux dire, j'ai une job à faire, là, tu sais.
C'est
même
ça,
là, je t'en parle, puis...
Mais c'est ça, mais je comprends, Caroline, parce que ça vous replonge là-dedans.
C'est capoté, hein? Je suis gênée, je suis honteuse parce que j'ai une job à faire, alors qu'elle a retrouvé sa mère dans le bas d'un escalier, dans une mare de sang.
Oui, puis c'est des jobs qui sont publics, donc tu fais de la représentation. C'est difficile d'avoir des moments de faiblesse quand il faut que tu livres la marchandise 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, moi, je pense qu'elle a vraiment bien fait de partager son histoire, non seulement pour qu'on comprenne mieux, parce qu'on comprenait. Tu sais, moi, j'étais zéro scandalisée qu'un ministre prenne une pause. Honnêtement, moi, je trouve ça un très bon message.
Excellent message, moi.
Mais maintenant qu'on connaît les détails, elle a un choc post-traumatique à soigner. Mm-hmm. Donc, on comprend encore plus. Puis l'autre élément, c'est que quand on parle de ces choses-là, on contribue aussi à envoyer le message à certaines personnes peut-être qui vivent La même chose, qui se disent « Voyons, pourquoi j'arrive pas à aller travailler, j'ai des crises d'anxiété? » Bien, peut-être que c'est des personnes qui vont se rendre compte que crime, ils ont quelque chose à soigner, à creuser, peut-être un choc post-traumatique. Des fois, on pense à un choc post-traumatique, c'est juste les militaires qui reviennent de combat.
De guerre,
ben hein. Non, là, tu sais, ça peut... Il peut y avoir toutes sortes de causes d'un choc post-traumatique. Ça nous fait replonger aussi à cette espèce de controverse qu'il y avait eu à la suite des funérailles de sa maman. Il y a un chroniqueur sportif qui avait envoyé une blague à Caroline Proulx par erreur, que je ne répéterai pas ici en ondes. Et elle avait réagi très fortement à ce moment-là. Puis honnêtement, tu sais, moi, j'avais pas... je trouve que le message qui avait été envoyé était inapproprié. J'avais beaucoup d'empathie pour Caroline Proulx. Imaginez, vous êtes en train d'enterrer votre mère puis vous recevez une joke...
De mauvais
très inapproprié, de mauvais goût via une messagerie de médias sociaux. J'avais eu beaucoup d'empathie à l'époque, mais je me disais, bon, l'erreur est humaine hein, et tout ça, puis elle l'est toujours. Sauf que maintenant qu'on sait dans quelles circonstances sa maman est décédée, et je me dis,
ouais.
Elle a vraiment pas dû trouver ça drôle de, en plus, recevoir une blague comme ça le jour.
Il y a un exercice de conscience sociale là-dedans aussi, parce que souvent, on va prendre, mettons, un politicien, une politicienne, puis faire, ben, d'autre manière, ils sont supposés avoir genre de bouclier, la carapace, tout ça, puis... Puis ça, là, ça peut être avec ton voisin, avec ton collègue et tout ça. Il y a des gens qui ne vont pas parler de leur truc. Puis elle n'en avait pas parlé avant cette entrevue-là. Elle n'avait pas expliqué ça. Puis on est souvent rapide à tirer à boulet rouge hein, sur des choses qui ne sont pas une opinion, qui ne sont pas, par exemple, un projet de loi ou autre, mais vraiment sur la personne. Puis s'en prendre des fois à la personne. Puis l'exercice de conscience sociale en ce moment, c'est de se dire, tu sais jamais ce que la personne vit.
Non.
Pourquoi elle a une réaction chaude? Pourquoi c'est sanguin en ce moment? Pourquoi il y a un manque de patience?
On n'est pas dans les souliers des autres.
T'sais. C'est ça.
J'écoutais. Là, vous allez m'aider. Là. C'est une journaliste sportive, une des premières femmes à avoir fait
Maccabé?
Ça.
Chantal
Maccabé? Non.
Ah, Marc-Claude Savard.
Bravo. Marc-Claude Savard qui racontait cette semaine qu'elle avait fait une entrevue puis elle racontait quand elle a divorcé qu'elle est allée, elle s'est sortie au restaurant puis elle a commandé une bouteille de champagne puis elle a bu sa bouteille de champagne. Et elle raconte des messages de haine qu'elle a reçus de certains téléspectateurs, auditeurs, peu importe, qui disaient « t'es pas gêné, tu bois du champagne, il y a du monde qui a de la misère à payer leur épicerie ». Le manque d'empathie
c'est
dans notre
fou.
Société, sérieusement.
On est des êtres humains.
Ben, c'est t'es, ça.
Soyons empathiques. Puis moi, avec les politiciens, je vais critiquer les décisions, mais jamais la personne.
C'est ça.
Parce que les personnes sont des êtres humains. Et d'ailleurs, je vous fais entendre un troisième extrait de Caroline Proulx qui explique à Paul Larocque que malgré le temps qui s'est passé, malgré le fait qu'elle avait dit « oui, je vais aller la faire, l'entrevue », le matin même, elle a passé très près de ne pas la faire.
Bonjour, Caroline.
J'ai failli annuler ce matin.
Ah oui? Pourquoi?
Je sais que je te l'annonce. Là. Parce que j'avais peur, un peu les mêmes craintes que quand j'ai décidé d'arrêter, le jugement, la honte. Puis les mêmes raisons pour lesquelles je te connais depuis 40 ans, Paul, c'est la raison pour laquelle j'étais avec toi. Pour les mêmes raisons que je me disais, si je lisais ce matin sur Sam Breton qui avait pris une pause, qui revenait, Jean-Philippe Vautier, ton collabo, Jonathan Trudeau, qui m'a beaucoup inspiré à arrêter, puis d'être contente d'entendre des gens, des hommes, c'est peut-être moins...
Parler de ces deux problèmes-là, oui.
Parler de santé mentale.
Ouais, réaction par texto ici. Vaut mieux un retrait, une remise en force que les conséquences d'une dépression sévère. Puis oui, puis soyez pas honteux. Moi, vous le savez, là, je fais partie de ces hommes-là qui ont mis le genou par terre, qui a dit « j'aimerais faire une santé mentale ». Ça m'a pris un bon 3 mois, puis ça m'a permis par la suite d'aller vers l'avant plutôt que de m'enfoncer dans mes idées noires. Fait que si vous êtes dans une mauvaise passe, n'ayez pas peur, levez la main. Appelez un ami, allez voir votre médecin, appelez au 1-866-APPEL. Mais bref, prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante. Il n'y a pas de doute là-dessus. Puis n'oubliez jamais, il y a beaucoup de violence présentement sur les médias sociaux. Les politiciens sont des êtres humains. Ils vivent les mêmes... vont vivre les mêmes problématiques que vous. Là. Ils vont être prochain aidant pour une mère qui est en fin de vie. Ils vont accompagner un enfant malade, justement, pour être dans la thématique des vœux de Noël.
Ils vont avoir des adolescents qui ont des enjeux de toxicomanie, de comportement.
Intimidation.
Ah, exactement. Donc, soyez bienveillants avec les gens. Il n'y a pas de doute là-dessus.
Puis, posons-nous la question aussi sur quelque chose qui est vraiment triste. C'est qu'elle dit, j'ai eu beaucoup de questionnements à savoir si j'allais sortir là-dessus. C'est une Étienne qui a vraiment fait rire d'elle depuis le début pour plein de raisons. Puis c'est pas la seule. Hein. Souvent, on va rapidement matraquer le politicien ou la politicienne. Puis elle devait se dire, hey, si je sors avec ça, je vais faire peut-être rire de moi. Si jamais on lit juste le grand titre ou on va pas plus loin dans la... Puis c'est vraiment spécial qu'elle ait à se dire ça. J'hésite à aller sur la place publique parce que je vais faire rire de moi avec une histoire comme celle-là. Là.
Ben non, c'est ça, avec une histoire.
Il y a un enjeu aussi de femmes en politique à travers ça parce que on a encore l'idée un peu inconsciente dans notre tête qu'un leader, un boss, c'est un homme. Puis qu'une femme, c'est plus faible, c'est plus émotif.
T'as raison.
Puis des fois, c'est conscient. Chez certaines personnes, ils l'avouent ouvertement, mais souvent, c'est plus pernicieux, c'est plus caché, c'est plus inconscient. Puis je pense que quand tu es une femme en politique, tu veux des fois montrer que tu es forte aussi?
Bien, c'est un excellent point. Tu vois-tu dans le podcast que j'ai fait avec Joël Boutin, c'est ce qu'elle me disait. Elle disait, hey, moi, des fois, là, je vivais des refus. Puis elle disait, tu sais, fallait pas que je démontre de faiblesse. Fallait toujours que je sois forte. Je suis une femme. Fallait que je fonce. Fallait que je tienne tête à tout le monde. Mais à un moment donné, c'est épuisant, ça. Là,
ça devient fatigant.
Moi, je suis très heureux d'être un homme faible. Je vais vous le dire comme ça.
Mais moi, je trouve pas que tu es faible, au contraire. Mais je trouve que ça prend beaucoup de force aussi pour prendre la parole. Donc, tu sais, c'est avant de prendre la parole puis d'avouer ça, t'as peur d'avoir l'air faible. Mais finalement, je pense que tout le monde se rend compte que c'est de la force.
Exactement. On a une auditeur qui nous écrit justement, merci pour les beaux mots. Je suis dans une passe difficile et vous entendre me fait un grand bien. C'est drôle parce qu'à chaque fois que je parle de santé mentale, je me dis toujours, hey, si je peux aujourd'hui aider une personne, je vais des fois sauver une personne. Bien, merci à cet auditeur qui nous a écrit. Tu fais ma faible journée, mais tu l'as fait. Merci beaucoup.
Ils ne m'entendront pas, mais j'ai aucun respect pour ceux qui vont prendre ces informations-là puis à un moment donné, se combattre contre toi avec ça puis prendre, comme quand tu t'es fait dire, retourne en dépression.
Non.
Moi, ces gens-là, même si je le dis à la radio, ça va passer dans une oreille, ça va sortir par l'autre, mais je n'ai aucun respect pour cette faiblesse d'être-là sociale.
Oui, et cet auditeur-là termine en disant, il faut toujours avoir en tête que c'est souvent temporaire et qu'une solution permanente ne sera jamais la solution. Tu as tellement raison. Allez, fonce vers la vie puis continue d'en profiter avec ta belle famille. Antonine, je te propose qu'on fasse un dernier sujet puis j'irai avec les élections municipales parce que il y a un très gros écart de vote par anticipation entre Québec et Montréal. C'est intéressant à constater.
Tu sais, on aime ça à Québec se vanter, là, puis se penser meilleur qu'à Montréal. Mais là, dans la question du vote par anticipation, on a bien raison de le faire. Le vote par anticipation, c'est de plus en plus populaire, élection après élection, à tous les paliers de gouvernement. Et moi, il y a quelques années, le monde, il votait le jour du vote.
Oui. Ça va-tu changer les stratégies électorales?
Oui, absolument.
Parce que je donne l'exemple juste ici à Québec. Là, je trouve que Sam Hamad est dans sa meilleure semaine de campagne.
Mais il y a plein de votes qui sont
déjà
dans
l'urne. Mais il y a déjà 16,6% des gens qui ont voté.
Exact. Non, effectivement, ça change un peu le calendrier de campagne. Tu veux marquer des coups là, t'sais, assez plus tôt en campagne. Sur la dernière semaine de campagne, généralement, tu la passes à essayer de motiver tes troupes, faire de la sortie de vote. Il faut que tu calibres certains messages parce que si tu es le premier, tu veux pas que les gens prennent pour acquis puis n'aillent pas voter, etc., etc. Mais là, c'est vrai que le vote par anticipation, ça monte un peu partout. Mais au municipal, c'est un peu différent parce que les partis politiques changent davantage.
Oui.
Souvent, c'est des partis qui vont être articulés autour d'une personnalité, hein, soit des personnes qui vont se présenter.
Équipe Labombe, qui était devenue équipe Marie-Josée Savard,
Leadership
qui est devenue
Québec
d'abord.
Oui, avec sa maman qui s'est
ouais,
lancée. Oui,
Leadership Québec qui sait si ça va rester.
Absolument, ça va peut-être faire une élection puis plus jamais exister, ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui va le reprendre. Bref, ça bouge un peu plus. Alors que, par exemple, au provincial, il y a quand même une partie de la population qui ont leur carte du Parti libéral, leur carte du PQ, puis qui vont voter pour ça pour le reste de leur vie. Fait que pourquoi ils attendraient à la fin de la campagne? Ils savent déjà pour qui ils vont
voter.
Pour
l'entité, mettons, du parti. Là,
exact,
pour
ce que c'est, pour la bannière, etc. T'sais, à moins qu'il se passe quelque chose de gros, ils vont être loyaux à la bannière. Donc, ça fait en sorte que aussi, que pourquoi tu attendrais le jour du vote faire les files d'attente? Bon, là, maintenant, les files d'attente au bureau
sont
rendues aussi longues que la journée du vote. Des fois, les gens vont regarder la météo aussi, ils vont se dire, ah ben... Il annonce beau en fin de semaine, autant aller mettre mon vote dans l'urne, alors que le 2 novembre, je ne sais pas trop quelle température il va faire, puis on ne s'enligne pas sur de la belle température en fin de semaine. C'est pas une raison de pas y aller, par exemple. Donc, à Québec, on fait le bilan de l'exercice du vote par anticipation en fin de semaine. 16,6% des gens ont voté. C'est une hausse de 3,2% depuis 2021 par rapport à 2021. Donc, c'est plus populaire que la dernière fois, alors qu'à Montréal, on est en baisse. C'est 9% des gens qui sont allés
voter. La preuve que c'est plate à Montréal. T'sais, tout le monde me dit ça. Tout le monde qui vient à Montréal dit, tu parles d'une campagne plate. Puis là, j'ai l'impression que Soraya Martinez vogue vers une petite victoire tranquille.
Ben, les derniers sondages mettent Soraya Martinez de Ferrada en tête. Mais il y a encore, en fait, dans le dernier sondage là, qu'on a vu, mm-hmm. il y avait encore beaucoup d'indécis. Donc, c'est sûr que si tu es indécis, évidemment, tu ne vas pas voter par anticipation. Donc, c'est sûr que ça a un impact.
Ouais. C'est vrai que le nombre d'indécis avait chuté à Québec de 31% au premier sondage à 14% au sondage sorti par Respect citoyen vendredi dernier.
On sent qu'à Québec, ça s'est cristallisé plus rapidement. Mm-hmm. C'est sûr que ça a brassé beaucoup, puis pas toujours pour le mieux. T'sais, le monde dit à Montréal, c'est plate. Là. Dis-nous autres, à Québec, c'est pas plate, mais il y a eu du lançage de boîte en tabarouette.
Oh, mais t'es la semaine où t'es-tu mon ami, t'es pas mon ami,
tu m'as-tu
faire un job?
Ça.
Non, c'était long, petit péché. Là. Quand t'aimes jaser d'idées politiques, là, à un moment donné, on tournait en rond. Là.
On tournait un peu plus en rond. Cela dit, je pense que ça a décidé pas mal d'électeurs qui allaient chercher leur faveur.
Oui, Bruno Marchand est passé de 29 à 40 % dans les intentions de vote après chicane.
La tendance est assez claire. Donc, à Montréal, moi, j'ai évidemment pas mal d'amis qui habitent à Montréal, comme vous tous probablement, et plusieurs d'entre eux, et des gens politisés qui suivent l'actualité, me disent « je n'ai aucune idée ».
Pour qui voter.
Il faut dire les candidats peut-être un peu moins connus. T'sais, c'est sûr, dans une grande ville aussi, un petit peu moins de proximité. À Québec, on connaît un peu tout le monde. On a une idée un peu sur tout le monde. Il y a sûrement des gens qui connaissent leur candidat comme conseiller municipal. Des fois, c'est des gens qu'on connaît même dans notre quartier, dans notre district. Alors qu'à Montréal, ben, c'est un nouveau chef pour Projet Montréal parce que Valérie Plante ne se représente pas. C'est Luc Rabouin qui était quand même une figure un peu connue. Mais si on fait un vox pop dans la rue, c'est pas tout le monde.
Le
maire du plateau. Et Soraya Martinez, ben oui, c'est une ancienne députée fédérale, mais tu sais, les députés fédéraux, elle a été ministre brièvement sous le gouvernement Trudeau, mais c'est pas non plus, tu sais, une super vedette là, que tout le monde connaissait, comme Denis Coderre, par exemple, là, évidemment. Donc, c'est pour ça aussi que ça contribue à dire que c'est un peu plate. Puis l'autre élément que je pense qui fait que ça lève moins à Montréal, c'est que moi, je trouve que tout le monde est à gauche. Okay? Puis là, tu sais, la gauche, la droite, c'est relatif selon... Tu sais, les gens qui sont très à droite trouvent que tout le monde est à gauche, puis les gens qui sont très à gauche trouvent que tout le monde est à droite. Puis, mais je trouve que en ce moment, bon, écoute, Ensemble Montréal, le parti de Soraya Martinez, c'est pas un parti de droite, mais je suis plus, disons, de centre. Si tu compares avec Projet Montréal, qui est clairement à gauche. Mais là, ça s'est subdivisé, là, cette gauche-là à Montréal.
Oui.
Parce qu'il y a Craig Sauvé, qui est un ancien de Projet Montréal, qui a lancé son propre parti, Transition Montréal, et qui divise une partie du vote de
surprise,
de gauche.
Surprise, la gauche s'est divisée.
C'est rare, hein, mais ça arrive. C'est bien rare.
PQ, Québec solidaire.
Puis parle-moi pas sur l'Europe, dans les pays d'Europe.
Oui, l'Europe, ils doivent être rendus à 5 gauches.
Écoute, là.
Parce qu'il y en a toujours un qui est plus à gauche que l'autre.
Mais c'est ça. C'est ça, c'est pas assez à gauche.
Non,
faut être plus à gauche.
Non, c'est moi qui est plus à gauche.
Puis c'est bien important d'avoir raison, hein, pas d'être pragmatique puis de gagner. Fait que c'est sûr que la gauche, des fois, on a tendance un petit peu plus à se diviser.
Ah oui, regardons ça. Mais... Gabriel Nadeau-Dubois voulait que QS soit plus pragmatique. Ça n'a pas marché.
Ben d'ailleurs, Gabriel Nadeau-Dubois a fait une lettre ouverte cette semaine.
Ben oui, on en a parlé avec Rémi Villemur hier.
Absolument, parce que justement, tu sais, je pense que c'est un appel aussi à être un peu pragmatique et à se dire là, la gang, c'est beau, il y a un parti un petit peu plus à gauche que la gauche qui s'est démarré.
Il va falloir qu'il aille au centre, Gabriel Nadeau-Dubois, s'il va être pragmatique avec ses amis à gauche, il ne sera pas capable.
Il ne sera pas capable, mais on ne lâche pas Gabriel Nadeau-Dubois. Mais cela dit, il reste encore un bon nombre d'indécis à Montréal. Puis c'est sûr qu'avec la division de cette gauche-là, ben, ça favorise Soraya Martinez-Ferrada, évidemment.
Clairement. Donc, à suivre, évidemment, émission spéciale sur nos ondes le 2 novembre prochain. C'est ce dimanche à compter de 19h30. On va couvrir Québec. On va couvrir également la grande région de Montréal. On n'oubliera pas Chaudière-Appalaches. Puis les autres grandes villes aussi, que ça va être intéressant. Saguenay avec André Laforêt, Sherbrooke et Gatineau, ça sera des nouvelles personnes qui vont être élues également à la mairie. Alors, on va couvrir l'ensemble de ceci. Et Antonine et Pascal, vous allez être avec nous. On va être choyés à côté.
On va avoir du fun. Ça va être super le fun à suivre. Puis, n'oubliez pas d'aller voter. C'est sûr, en des fois au municipal, les taux de participation sont moins élevés. Mm-hmm. Pourtant, là, c'est des choses qui vous touchent au quotidien. Donc, prenez le temps d'aller voter, même si ce n'est pas parfait, même si ce n'est pas le parti qui répond à toutes vos aspirations. Laissez pas du silence à la place de votre vote, c'est important.
Puis il y a des candidats indépendants aussi qui se valent d'être écoutés aussi dans certains secteurs de Québec. Alors, ça peut vous intéresser. C'est peut-être une option aussi.
Clairement, je termine le segment, le caucus, avec une auditrice qui nous écrit « Merci de parler de santé mentale et de dépression. C'est encore trop tabou. » Signé une intervenante scolaire de plus de 50 ans qui gère un fils adulte qui souffre de schizophrénie depuis 3 ans. J'ai dû arrêter quelques mois l'an dernier. Bien, on est avec toi, chère auditrice.
On pense à vous.
À 100%. Après cette course, courte pause sur les ondes de Boulevard 102 à l'émission Nageur. C'est la doc Julie Laflamme qui vient s'installer avec nous. Elle est pédiatre en soins palliatifs au Centre Mère-Enfant du CHU de Québec. Donc, on va discuter avec elle justement de cette très belle journée, le Clair Communication des vœux de Noël. Restez avec nous. Wow! Quelle belle visite on a en studio, Pascal CV. On est choyé de faire notre métier.
La plus belle visite de l'année, ça, c'est certain.
Ça, c'est clair. Et Pascal, explique donc aux auditeurs qui viennent de se brancher avec nous à Boulevard 102.1, c'est quoi la journée spéciale d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Il y a donc de la fébrilité ici.
C'est la journée Jalen, c'est aussi simple que ça. Hein? C'est notre rockstar, notre vedette de la journée qu'on accueille. Mais assurément, c'est la journée des vœux de Noël chez Leclerc Communication. Là, vous dites Noël en octobre. Ben oui, il faut se préparer pour Noël. Puis c'est surtout qu'on a un rôle à jouer pour les soins palliatifs pédiatriques du Centre Mère-Enfant Soleil du CHU de Québec. Puis Noël, c'est à l'année pour le Centre Mère-Enfant parce qu'on essaie de gâter le plus possible. Puis gâter, moi, je trouve que c'est même pas le bon mot. Soutenir notre communauté annuellement avec cette journée-là. Jusqu'à maintenant, Leclerc Communication a remis 685 000 $ à l'équipe de Dr Julie Laflamme et Maryse Frenette. C'est des dons qui sont vraiment significatifs, qui viennent, un, de vous, les auditeurs, des partenaires commerciaux aussi, publicitaires qu'on a, puis d'un peu tout le monde qui a envie de faire un changement crucial, flagrant dans leur communauté ici à Québec pour des enfants comme Jalen. On vous explique. En fait, ça vient en aide assurément aux enfants qui sont malades, à leur famille aussi, avec tout ce qui n'est pas couvert par la RAMQ, par ce que vous connaissez en fait avec votre petite carte soleil. C'est des soins de massothérapie, d'art-thérapie, des ateliers de sculpture de main, des photographies professionnelles, c'est des trousses de confort, des cérémonies commémoratives, des lits extensibles humano. Puis là, on vient de faire une liste, mais au quotidien, c'est tout ce qui rend mieux, bien, et qui offre le fameux baume, là, je dirais, avec la grosse couverte chaude aux familles dans le réconfort de la maladie dans un foyer. Puis ça, c'est des soins qui sont seulement possibles grâce à vos dons. Puis aujourd'hui, on fait des campagnes publicitaires à rabais. Donc, c'est la seule journée de l'année où vous pouvez réserver à rabais comme ça. Puis il y a des profits. Puis pour beaucoup, là, c'est une grosse frange de nos profits qui s'en va justement à cette cause-là. Alors aujourd'hui, un, vous allez vous faire entendre sur les ondes de Boulevard 102.1, mais deux, vous allez mener au bien-être de ces gens-là qui, on va pouvoir vous les présenter aussi, entre autres, avec nos invités.
Exactement. Le numéro pour nous joindre, pour acheter les plans publicitaires Pascal CV, c'est lequel?
C'est le 418-682-8420. Mm-hmm. Si vous êtes c'est allé vite, écrivez-nous par texto, on va vous l'envoyer.
Oui, clairement.
Si vous êtes où, c'est allé vite, allez sur Twitch. Mm-hmm. Puis vous allez voir le numéro en bannière, mais surtout, vous allez découvrir nos invités qui sont en studio.
Exactement. On a l'opportunité, je dirais l'honneur de recevoir justement Jalen et sa famille, ainsi que la docteur Julie Laflamme. Jalen, est-ce que tu as le goût de nous dire un petit mot au micro?
Oui.
Oui? Comment ça va, mon grand?
Oh, il fait du bien.
Ah oui!
T'es bon!
Mais, wow!
T'es bon!
On applaudit, mesdames et messieurs, on applaudit à la maison également. C'était Jalen que j'ai eu la chance, moi, de rencontrer à l'exposition qu'il avait faite de ses robots. J'ai un cadre chez moi de Jalen. T'as beaucoup de talent, mon grand?
Il est humble.
Ah, quel beau sourire. Extraordinaire. Doc Laflamme, qu'est-ce que ça fait d'être ici dans ce marathon radiophonique, justement, pour le centre pédiatrique Mère-Enfant?
C'est une grosse journée, mais une journée tellement importante. Je ne sais pas si les gens, l'autre bord, qui écoutent la radio aujourd'hui, qui vont faire des dons, savent à quel point c'est important puis à quel point ils peuvent nous aider à faire une différence dans la vie des familles.
Mm-hmm. Vous, à travers le temps, vous avez vu quoi concrètement là, comme aide pour les enfants, la famille, avec cet argent-là?
En fait, on s'est toujours basé sur les besoins des enfants, les besoins des familles. Donc, on a développé chacun de nos services en fonction de ce qu'ils nous demandaient.
Unique, là, à chacun.
Bien, oui, c'est des services en général, mais qui ont été basés sur ce qu'on nous a demandé. Dans le fond, j'aurais besoin de telle chose. Ah, bien, on va y répondre. Mm-hmm. Alors, on a commencé avec des services de massothérapie pour essayer d'aider le confort d'une manière autre que par des médicaments. Dans le fond, la masso, ça permet à l'enfant de sentir des sensations agréables malgré la maladie. Donc, ça lui réapprend à connaître son corps puis à voir que c'est pas juste de la souffrance qu'on vit.
Wow.
Suite à ça, on a eu des enfants qui nous ont dit « Tu penses-tu qu'on va m'oublier? » Bien là, on s'est rendu compte qu'il y avait besoin de laisser une trace. Une trace, quand on est un adulte, on en a laissé. Hein. On a bâti déjà un héritage, quel que soit notre âge. Un enfant, bien, c'est tout petit ce qu'il a bâti. Donc, de les aider à en faire plus, c'est de là qu'est venu le service de photographie. Suite à ça, le service où on fait un moulage de la main ou d'un pied de l'enfant, dépendamment de son âge, puis qu'on peut redonner une sculpture en trois dimensions, là, très réaliste aux parents, là, par la suite, pour eux, c'est inestimable. Mm-hmm. Donc, on est toujours là-dedans. Cette année, bien là, on est sur...
Il y a
sur,
la bucket list la bucket cette année list, que j'adore. Exactement. Et d'ailleurs, j'ai parlé de l'exposition. C'était la bucket list de Jaden.
Ben, en fait, la création de l'héritage, on pense toujours à des objets. Il y a de l'intangible aussi qu'on peut créer. Mm-hmm. Donc, des moments précieux, des réaliser, en fait, s'accomplir jusqu'au bout, puis réaliser des souhaits. Bien, on fait la bucket list. Mm-hmm. C'est hyper important. Puis c'est vraiment prouvé que comme équipe médicale, on peut faire une différence à répondre à ces besoins existentiels-là que les enfants puis leurs familles ont. Donc, d'aller donner de la douceur dans de la fin de vie, ça permet d'avoir du positif. Moi, je me dis souvent, mettre du beau dans ce qu'il n'y en a pas. Là. C'est pour ça qu'on travaille.
Puis Jaylen a travaillé à faire des dessins. Tu faisais des dessins de robots. Tu es très, très bon là-dedans. Puis tu souhaitais les exposer?
Oui.
Oui? Est-ce que tu as eu du plaisir dans cette exposition-là?
Vraiment.
De quoi tu es le plus fier?
De... mes robots.
Des robots en général. Oh. Est-ce que tu dessines encore?
Oui.
Oui.
Ça te fait du bien dessiner?
Oui, oui. Beaucoup.
Beaucoup, hein? Mm-hmm. Oui. Puis, dis-moi alors, Jaylen, moi, je t'avais vu danser. Est-ce que tu es un bon danseur?
Gros sourire.
Excellent danseur.
Ah oui, Jaylen qui avait fait danser ma conjointe Valérie, là, justement, là, lors de l'exposition. C'était extraordinaire. Tu es un garçon extraordinaire. Tu le sais? Oui? Je vais m'adresser un petit peu à la maman de Jaylen, justement. C'est comment vivre une journée comme ça? Parce que c'est pas tous les jours que... Vous faites le tour de la radio, vous jasez à tout le monde. Fait que je veux pas trop vous épuiser. Alors, je vais vous demander, c'est comment vivre une journée comme ça? Je veux pas trop vous rembarquer dans plein d'émotions.
Bien, en fait, ça fait vraiment plaisir d'être ici parce que c'est vraiment un bel événement. Je me souviens pas, tantôt, quelqu'un qui a parlé de bombe.
Un bombe, oui.
Mais c'est vraiment ça. Tu sais, c'est un petit bombe qui soulage, qui apaise. Et ça guérit pas, mais ça soulage, puis ça donne des petits moments de bonheur. C'est autant pour, en fait, pour tout le monde, pour la famille, pour l'enfant lui-même qui est malade. Puis,
vous regardez beaucoup votre fils hein, depuis tantôt. C'est comme si c'est votre enfant qui est malade. C'est un aura quand même différent de ce que nous, on ne vivra pas ou peut-être que des gens ne vivent pas qui vous écoutent. Puis on a tellement de support depuis que vous êtes à la radio avec nous depuis le début des interventions en votre sens. Mais en tant que maman dans tout ça, c'est de voir votre fils s'accomplir puis de réaliser des choses grâce à ces fonds-là que les gens font comme non, nous autres, on va leur donner, on les connaît pas, mais on a envie de les soutenir. Ça vous touche particulièrement, ça?
Ah oui, oui, ça me touche vraiment beaucoup. Surtout que, tu sais, j'ai un enfant que depuis qu'il est petit, il a toujours voulu aider les autres.
Mmh. C'était en lui, ça?
Oui.
Ah, c'est incroyable.
C'est comme si, là, c'est comme une prolongation de lui.
Puis vous le sentez comme ça, puis vous le voyez comme ça. En tant que parent, ces soins-là, c'est sûr qu'ils sont souvent reliés à l'enfant, mais ça vous amène quoi comme force au quotidien, le centre mère-enfant?
Bien, le soutien qui est tout le temps là, présent, tout le temps là. Je veux dire, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, là. On a les coordonnées, on les appelle, que ce soit pour n'importe qui, pour n'importe quoi. Il va toujours avoir une réponse, là, puis du soutien qui est là pour nous. Là.
Mm-hmm. À l'heure actuelle, Jaylen est à la maison et fait des tours également à la Maison Les Merveilles, c'est ce que je comprends, au centre pédiatrique?
Non, ben Jaylen est à la maison, mm-hmm. parce que ben, malheureusement, c'est ça doit être comme ça. Mm-hmm. On voulait aller à la maison Laura Les Merveilles, sauf que sa santé, c'est plus difficile maintenant, les déplacements, là, sortir de la maison, c'est plus fatigant.
Donc, il nous fait un beau cadeau de sa présence aujourd'hui, c'est ce que je comprends.
Oui.
Good. Vous le vivez comment présentement, ces moments-là avec votre fils? Vous sentez-vous privilégié de les vivre?
Ah ben oui, certainement, parce que on sait au bout de la ligne, c'est quoi qui va arriver. Donc, on essaie vraiment de profiter de tous les moments, dans le fond, de sa présence. On essaie de se créer des souvenirs, d'enregistrer tout ça dans notre mémoire. Puis le bucket list, ben c'est bien parce que, tu sais, je sais pas pour les autres parents, mais pour nous, notre bucket list, on se l'était déjà fait un peu. Puis c'est sûr, on y va avec par des petites choses, c'est avec les moyens qu'on a aussi, là. Mais là, de savoir que, tu sais, c'est qu'on ramasse, que la Fondation ramasse des sous pour faire un petit peu la même chose que nous, on fait pour notre garçon, mais. Toutes les autres enfants, toutes les autres familles vont pouvoir en bénéficier. Là.
J'ai vu un Jaylen vraiment heureux à sa bucket list, à son exposition. C'est un de ses beaux moments dans sa vie?
Ben, Jaylen, il est très... il est très... expressif. Fait que, tu sais, quand il est content, on le sait qu'il est content. Ben, en fait, il est content dans la majorité de son temps. Là. Je veux dire, même quand ça va mal, il prend le temps de demander aux autres comment que les autres vont. T'sais, il se préoccupe vraiment beaucoup plus des autres. Il a vraiment un grand cœur, là, tu sais. Mais c'est un garçon qui est facile d'approche, qui est très attachant.
Oui.
Mon Dieu, il parle à tout le monde dans la rue.
Vrai qu'on s'attache vite.
Il gardera avec moi, là.
Fait que, on se promène dans la rue, puis il y a des gens en voyage, mettons, qui nous arrêtent, puis disent, vous êtes les parents de Jaylen? Oui.
Oh, wow!
Vous avez vraiment un bon garçon, il est fin, il est attachant, mais là, on connaît pas la personne. Fait que, non, c'est ça, il est très un grand cœur puis très sociable. Ah
ouais. On peut-tu poser une question difficile, mais essentielle?
Oui.
On en est où dans le parcours de Jaylen?
Jaylen, on est en fin de parcours. Fait qu'on est vraiment dans les soins palliatifs. Puis on va rajouter deux fins de vie qu'on souhaite le plus loin possible. Mais...
Qu'est-ce qui manque à réaliser que vous avez en tête que vous aimeriez vraiment beaucoup faire avec votre fils ou pour votre fils?
Eh, Seigneur, la bonne question. Je vous dirais que qu'est-ce qui manque, c'est vraiment, on y va avec lui. C'est vraiment selon ses besoins, selon comment il va. Parce que, bon, des fois, il est fatigué, des fois, il l'est moins. Mm-hmm. Avec les moments où ce qui est qui a une bonne éveil ou ce qui est là, on lui demande, mais qu'est-ce que tu aimerais faire? Puis c'est sûr que Jaylen, c'est difficile de développer ses idées à cause de son trouble de langage, là, mm-hmm. avec tout ce qui est arrivé. Mais on essaie de donner des choix, on lui fait des propositions. Fait que oui, non, tu sais. Par exemple, veux-tu aller prendre une marche dehors, tu sais, dans ta poussière?
Ouais.
Oui, non. Il va nous faire signe de tête, là. Ou est-ce que tu préfères, écouter un film ou aller dehors. Fait que on y voit des petites choses mm-hmm. simples. C'est un petit peu ça. Puis on sait aussi ce qu'il aime. Fait que souvent, on essaie de proposer ce qu'il aime.
Ce qu'il aime, oui, pour qu'il en fasse.
Ou des fois, d'essayer de faire découvrir d'autres petites choses là, qui feraient peut-être.
Qu'est-ce qu'il aime? C'est quoi, c'est... à part les dessins, on sait qu'il dessine, mais qu'est-ce qu'il aime sinon dans ses activités?
Bien, c'est sûr qu'il aime. C'est un ancien sportif, on va dire comme
oui,
ça.
Oui, oui.
Fait que le hockey, le soccer, c'est quelque chose qu'il aime beaucoup. Il était tout le temps... Bien, son petit frère fait du soccer, donc quand il était plus en forme, on l'amenait avec nous, puis mm-hmm. il se promenait... il écoutait le hockey, mais il se promenait surtout, puis il jasait plus avec les gens qu'autre chose. Il distribuait ses dessins sur le terrain de soccer aux gens.
C'était
comme une façon pour lui de laisser sa trace.
Mm-hmm. Ouais.
Le hockey, il continue d'aimer ça. C'est sûr qu'il aimerait ça.
C'est un grand fan du Canadien.
Sur la glace, oui.
Ah oui, hein? C'est clair. Tu es un fan du Canadien, Jaylen? Oui. Est-ce que tu sais qu'ils ont gagné hier? Un but de Cole Caulfield. Est-ce que tu veux entendre le but de Cole Caulfield? Tu veux-tu que je te fasse entendre ça?
Il manquerait peut-être la petite paire d'écouteurs.
Ouais, ici, là. Je vais te faire entendre le but de Cole Caulfield hier en prolongation contre le Kraken de Seattle. On va te faire jouer ça dans tes oreilles, Jaylen. T'es prêt? C'est parti.
Suzuki pour Caulfield. Il résiste à Catton. Caulfield, quelle fin! Caulfield, derrière le filet maintenant. Qui d'autre? Pas possible! Encore! Cole Caulfield qui donne la victoire aux Canadiens en prolongation. Ma parole!
Wow! Est-ce que tu l'aimes, Cole Caulfield?
Oui.
Ah oh, oui, hein? C'est un bon marqueur. Hein? Oh, oui, c'est un excellent joueur pour le Canadien. Donc, une autre victoire du Canadien hier, Jaylen. Moi, je pense qu'ils vont gagner toute la saison. Es-tu d'accord avec moi?
Oui.
Oui, hein? C'est ça que je pensais, je le savais. Comment va le petit frère là-dedans, justement? Comment il vit ça?
Le petit frère, ben ça va bien. J'ai me fait
un pouce en l'air.
Go, Canadien, go!
Tout le monde va bien, en fait. Ouais. On se cache rien. On se dit toujours c'est quoi les prochaines étapes. On demande leur avis.
Ça force-tu la famille à être adulte et plus mature rapidement?
Pour être franche, je pense que j'ai vraiment des enfants qui ont toujours été un petit peu plus matures que d'autres pour leur âge. Là. Pour quelle raison, je sais pas. Je pense que je prône beaucoup l'autonomie aussi dans la famille. Fait que je pense que ça vient aider beaucoup. Là. C'est sûr que le petit frère, tu parles d'autonomie. Oui, je pense qu'il est vraiment beaucoup plus autonome puis mature pour un petit garçon de 9 ans. Parce que... Et dans le fond, tout ça a commencé pendant la pandémie. Que c'était beaucoup l'école à domicile. Donc, tout le monde, le télétravail, tout le monde dans leur chambre, dans leur petite, dans leur bureau à travailler. Lui, il est à la maison, évidemment, à travers tout ça. Fait qu'il s'est quand même débrouillé. Il a dû se débrouiller. Sans maman, puis Jaylen, qui était en traitement aux États-Unis, à l'extérieur. Donc, il est devenu assez autonome rapidement, mm-hmm. et mature. Il comprend beaucoup de choses. Il pose beaucoup de questions par rapport justement à la maladie, à comment va son frère, mais pourquoi c'est comme ça. Évidemment, ce temps-ci, c'est beaucoup de questions sur quand il va être mort, il ne sera plus avec nous, puis tout ça. Mais
un concept
il comprend,
difficile
là,
quand ouais. même, oui. ça, pour des jeunes puis des parents aussi. Oui. Je veux dire, personne ne comprend automatiquement ce concept-là. Puis le vivre, ça peut être difficile. Je pense que le Centre Mère-Enfant aussi vous aide beaucoup avec ça, avec cette explication-là. Puis pas nécessairement l'acceptation, c'est pas toujours ça qui est possible, mais au moins d'être un peu plus serein là-dedans ou...
Je pense qu'on le vit tellement depuis longtemps qu'on mm-hmm. s'était fait déjà l'idée qu'un jour ça va arriver. On n'espère jamais que ça arrive mm-hmm. rapidement, là. Mm-hmm. Mais je pense que ça l'a aidé, le fait de savoir que, malheureusement, la maladie fait en sorte qu'il n'y a pas vraiment de possibilité de guérison. Là,
vous êtes allé jusqu'aux États-Unis. Est-ce que c'est dans le but, justement, d'essayer de trouver ce fameux traitement-là qui aurait permis de sauver votre enfant?
En fait, la première option après la chirurgie qu'on a eue, c'était vraiment c'est ce qui nous avait été offert, là, mm-hmm. la protonthérapie qu'ils appellent. Puis malheureusement, au Canada, on n'a pas encore ça. Donc, on nous a offert d'aller... nous, on est allés à Philadelphie.
OK.
Donc, c'est ça. On est allés chercher ce premier traitement-là qui est censé fonctionner, en ouais, fait, ouais. Là, pour la plupart des enfants. Malheureusement, là, on fait partie du 10-20% que ça ne fonctionne pas. Là. Puis, je pense qu'on a vraiment tout fait, là, tout ce qui était possible là, au niveau... traitement, essais cliniques et tout ça. Là.
Ça doit aider à être serein, justement, face à la situation, en disant « j'ai tout essayé ».
Ben c'est ça, exactement. Là. On se dit « bon, on aura tout essayé ».
Mm-hmm. Non. Doc Laflamme, comment vous faites pour avoir cette carapace-là?
Je pense que j'ai pas de carapace.
OK.
Vraiment pas. Non. En fait, je suis la plus émotive du monde. Là. Donc, c'est sûr que chaque enfant, chaque famille nous touche. Fait que je pense pas qu'on peut avoir une carapace. Je pense qu'on peut essayer de prendre soin de soi. pour pas que ça nous empêche de continuer à offrir des soins. Donc, il faut vraiment s'analyser jour après jour. Puis ça, on le fait en équipe. Là. J'ai une belle équipe qui est à côté. Là, puis on, chacun, à notre tour, on dit « Oh, toi, ça va pas aujourd'hui. Okay. » Fait que là, OK, c'est le temps. On sort les chocolats d'équipe. Puis on mange la poutine. Let's go.
Ah ouais, puis, c'est les chocolats puis la poutine dans ce temps-là.
Ouais, les vendredis poutines.
Ah. Ouais.
Mais
je pensais jamais qu'une médecin nous dirait que c'est les vendredis poutine, Pascal.
Ben c'est souvent, ça peut être un mercredi poutine aussi des fois.
OK, parfait. Excellent.
Donc mais c'est ça, fait qu'en équipe, ben on se soutient. Donc il faut vraiment essayer de pas se laisser envahir complètement par ça. C'est sûr qu'on arrive le soir, on y pense quand même, mais il faut aussi être capable de d'avoir notre vie personnelle puis que ça n'envahisse pas ça. Fait que non, j'ai pas de carapace, j'ai jamais trouvé de recette pour ça.
Excellent. Mmh.
Avoir tout ce que ça fait puis le confort que ça apporte à ces familles-là puis le genre de solution qu'on trouve tous ensemble hors gouvernement, hors santé, hors ministère de la santé, je veux vraiment pas faire de politique, c'est pas mon cas dans la question, mais nous, en tant qu'animateurs, on se dit, voyons, pourquoi ces choses-là sont pas couvertes par la RAMQ? Pourquoi est-ce que on ne peut pas avoir un soutien supplémentaire. Dans la maladie, oui, la portion santé, mais il y a tellement la portion humaine qui devrait être la priorité. Je suis contente qu'on se soutienne tous ensemble, que Leclerc Communication embarque dans cette belle journée de vœux de Noël-là annuellement, mais comment est-ce qu'on peut en faire plus? C'est une bataille qu'on mène du côté du Centre Mère-Enfant-Soleil. Oui.
C'est sûr qu'on veut toujours en offrir plus. Hein. Moi, je suis celle qui a toujours, en équipe, on a toujours des nouvelles idées, puis on dit « Hey, cette année, il faudrait faire ça. » Puis après ça, il faut prouver le besoin. Ça, des fois, c'est difficile de dire « OK, ben de parler aux dirigeants, de dire « ben c'est un besoin, donc laissez-moi aller chercher des sous pour ça. » Je pense pas que ça va être un jour défrayé par les systèmes publics. Là. Donc, on va continuer à avoir besoin des gens pour nous aider à ces petits à côté-là, ces douceurs-là qu'on rajoute au quotidien des familles.
Ouais. Et justement, c'est la journée des vœux de Noël à Leclerc Communication. Donc, on vous invite fortement à appeler au 418-682-8420 pour vous munir d'un plan publicitaire. Les meilleurs prix de l'année sont aujourd'hui. Et par exemple, pour 30 messages à Boulevard 101, c'est 600 $. Vous pouvez choisir la voix de Pascal CV, vous voulez. Celle d'Audrey Pinchot, celle de Jeff Fortin, celle de Marceau Chaussé, celle que vous voulez comme voix pour 600 $ pour 30 messages. Et ça marche vraiment. Et ça, bien comme on l'a très bien mentionné, comme Pascal nous l'a très bien mentionné, c'est pour justement permettre aux jeunes d'avoir des soins de massothérapie et d'art-thérapie, des ateliers de sculpture de main. Est-ce que Jaylen a fait l'atelier
encore,
de sculpture de main?
Non, pas encore.
Ça s'en vient. Également, photographie professionnelle, trousse de confort, cérémonie commémorative et lit extensible humano. Et comme on le disait également, cette année, on a le projet de la bucket list pour permettre aux enfants de réaliser un rêve. Dans le cas de Jaylen, ça a été l'exposition justement de ces robots encadrés. J'en ai un dans la chambre de Gabou, le fils de Val, ma conjointe. Et on va le garder très, 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 très précieusement.
On ne peut pas vous offrir plus que ça, ceux qui sont à l'écoute, dans le sens où on a tenté de faire en sorte que tout le monde soit gagnant là-dedans, mais pour cette cause-là. Mm-hmm. Puis d'acheter une campagne de publicité, que ce soit pour pénurie de main-d'œuvre, saluer votre monde, souhaiter joyeux Noël, faire une niaiserie, aller avec l'humour, chanter. Nous autres, on s'en fout, là. C'est n'importe quelle bonne idée qui vous permet, de triper avec votre campagne publicitaire qui va fonctionner sur les ondes de Boulevard 102.1. Vous allez voir des retombées. Puis pensez à ça. En achetant votre campagne aujourd'hui, en la réservant, automatiquement, vous contribuez à changer le quotidien de ces gens-là. Vous avez entendu dans l'entrevue, c'est le moment présent qui compte. Mm-hmm. Chacune de ces activités-là, quand malheureusement, le jour sera venu, il va falloir faire le deuil de l'enfant qui va avoir quitté ce monde-là, va rester dans la tête des familles. Puis c'est une chance que j'ai eu, moi, mon colleux dans les lits extensibles humano, que j'ai pu dormir avec mon enfant, parce qu'il ne pouvait pas venir dormir à la maison, peu importe. Puis j'ai pu me coller avec lui, parce qu'il y a des gens qui ont pensé à nous, qui ne nous connaissent pas, qui ont acheté une campagne publicitaire chez Leclerc Communication, puis que ça a servi à avoir plus de lits de ce type-là, où je peux avoir une nuit collée avec mon enfant. Si ce soir, vous couchez collé avec votre enfant, puis vous avez acheté un plan publicitaire, je suis certaine que ça va résonner dans votre tête. Puis ça, c'est des moments qu'on ne peut pas, mais on ne peut pas bricoler sans vous. Puis c'est des moments qui vont jusqu'à temps que ça se termine, être chéri par les familles, puis encore, ça va être le souvenir qui va leur rester. Puis ça, c'est grâce à cet engagement collectif-là que vous prenez avec nous.
Je termine l'entrevue. Vous avez énormément de messages d'amour en passant de nos auditeurs. C'est très beau. Je termine l'entrevue avec Marco qui nous dit « J'ai perdu un enfant. Je vous écoute dans mon auto, les yeux pleins d'eau et le cœur rempli d'amour. » Donc, on vous envoie tout l'amour du monde de nos auditeurs, des gens qui travaillent à Leclerc Communication, des frères Leclerc, nos propriétaires qui ont cette idée extraordinaire de vous aider. Alors, on vous envoie beaucoup d'amour. On vous souhaite une excellente fin de journée. On se croise tantôt.
Merci, Delon. Merci.
Ça fait plaisir. On se croise tantôt. Après la pause, on va parler avec la journaliste Catherine Lamontagne-Pascal qui, justement, a écouté des témoignages clés de la part de Jacques Delisle dans cette fameuse histoire-là là, du meurtre de sa conjointe.
Au-delà de ça, ça fait des années qu'elle suit le cas de l'affaire Delisle.
Oui.
C'est une des journalistes qui suit le plus le tout et elle vient de publier un livre, en fait. Si vous voulez jaser avec nous dans les prochains instants, on fait le tour de ce cas-là qui a marqué les esprits et encore.
Exactement, on aura des extraits également à vous faire entendre, des témoignages. Alors restez à l'écoute, vous êtes à l'émission On en jase sur Boulevard 102.1.
On en jase jusqu'à 14h. On en jase à Boulevard 102.1.
Mais j'avoue que mettre des gants blancs pour ce genre d'exercice, c'est une idée qui ne me viendrait pas.
Jusqu'à 14h, on en jase.
Déjà 13h12 dans cette journée des vœux de Noël à Leclerc Communication. On vous revient avec tous les détails tout à l'heure parce que là, Laura s'est bousculée, hein, Pascal, avec cette belle entrevue avec Jaylan et sa famille.
C'est allé vite.
Oui. Yes, on va avoir peu de temps avec Catherine Lamontagne, donc on s'en va la rejoindre immédiatement. Journaliste pour le Journal de Québec et également écrivaine. Catherine, comment vas-tu?
Ça va très bien, merci.
Cool. Catherine, d'où est venue l'idée, là, justement, de continuer avec cette histoire-là de Jacques Delisle? Est-ce que c'est en raison, justement, des témoignages sur lesquels vous avez eu accès, là, témoignages où on voit, là, justement, Jacques Delisle en interrogatoire?
Bien, en fait, la saga Delisle, c'est une histoire sur laquelle je travaille, moi, depuis 15 ans. Donc, j'avais publié un premier livre là-dessus en 2014 là, qui relatait, j'ai envie de vous dire, le premier chapitre de cette histoire-là qui était déjà fascinante. Hein. C'était quand même la première fois qu'un juge était accusé de meurtre prémédité au Canada, si c'est pas en Occident. Donc, il y avait eu un premier livre en 2014 et par la suite, j'ai été approchée par la boîte de production Pixcom et le réalisateur Simon Fachel pour faire un documentaire. Ce qu'on se doutait pas, par exemple, à ce moment-là, c'est qu'il allait avoir une autre décennie de rebondissement dans cette affaire-là. On le sait, le ministre ordonnait un nouveau procès là, en disant que M. Delisle avait possiblement été victime d'une erreur judiciaire. Et finalement, au bout de 15 ans là, de procédure, Jacques Delisle a été coupable à une accusation d'homicide involontaire. Et il demeure encore aujourd'hui une espèce d'aura de mystère sur cette affaire-là. Parce que on ne sait pas encore vraiment, et probablement qu'on ne saura jamais là, ce qui s'est passé le matin du 12 novembre 2009, quand la femme du juge Delisle, là, Nicole Rainville, a été retrouvée sans vie avec une balle dans la tête. Donc tout ça amenait un certain intérêt. Chez moi, j'avais des questions, puis avec l'équipe de la boîte de production, on est allé trouver certaines réponses à nos questions. Je vais vous dire, on a eu accès à des documents inédits, des entrevues aussi où les gens sont allés plus loin qu'est-ce qu'ils nous avaient dit habituellement. Vous avez parlé de l'interrogatoire d'entrée de jeu. L'interrogatoire de Jacques Delisle, ça n'avait jamais été rendu public. Là. Donc, on voit Jacques Delisle dans les heures suivant son arrestation pour le meurtre prémédité de son épouse. Donc, ça fait partie des pièces là, qu'on retrouve dans le livre et le documentaire.
On a hâte de lire ça, assurément. Ça sort dans les prochaines heures, en fait. On a les clips. On va faire entendre ça après t'avoir parlé, Catherine, parce que je sais que c'est une grosse journée média pour toi, veux pas. C'est un des cas qui a vraiment été joué dans l'imaginaire du commun des mortels qui suivaient ça, un peu comme les séries maintenant qui sortent sur Netflix, etc. Et là, c'était une histoire vraie. Qu'est-ce qui, toi, te marque en tant que personne et ou journaliste de ce cas-là après autant d'années?
Mais il y a plusieurs éléments marquants, mais moi, ce qui m'a à chaque fois surpris, en fait, c'est les rebondissements. En 15 ans, je pense que j'ai pensé à plusieurs reprises que c'est un dossier qui était terminé, mais non. Donc, il y a l'arrestation de Jacques Delisle, il y a le procès, il est connu coupable, on va se dire, bon, c'est terminé. Là, il va en cour d'appel, la cour d'appel refuse, on se dit, bon, mais c'est terminé. Il va contester encore le verdict de culpabilité à la Cour suprême veut pas entendre le dossier, on se dit, bon, mais c'est terminé. Mais non, il sort une autre carte, en fait, qui est prévue au Code criminel, la demande de révision ministérielle. Donc, Il va demander au ministre, là, il va livrer une nouvelle version des faits aussi. Là, on sait que la version de Jacques Bedel a changé au fil du temps. Et là, on se dit, bon, mais là, c'est tellement rare d'avoir un nouveau procès dans cette procédure-là, ça va se terminer. Mais non, le ministre ordonne un nouveau procès. Donc, ça a été sans cesse là, des rebondissements en rebondissements pendant 15 ans. Et le plus gros rebondissement de cette affaire-là, c'est quand Jacques Delisle, qui clame son innocence depuis 15 ans, qui dit qu'il n'a rien à voir avec le décès de sa femme, finit par plaider coupable à une accusation d'homicide involontaire en bout de ligne. Donc, ça aussi, c'est assez surprenant. Donc, puis même encore aujourd'hui, bon, il demeure des zones d'ombre dans cette histoire-là, mais peut-être qu'un jour, là, on aura un énième revirement de situation dans cette affaire-là. C'est pas exclu du tout.
Ah oui, hein, la porte est ouverte.
Catherine, en terminant, si Jacques Delisle n'avait pas été un juge, est-ce que tu crois que la saga aurait duré aussi longtemps?
Mais ça, c'est une bonne question. Puis je pense que c'est une question à double tranchant. Parce que d'un côté, il y a des gens qui disent « Oh, c'est bien, c'est un juge, il y a eu un nouveau procès, le ministre qui a fait une faveur, blabla. » Et il avait les moyens de se défendre, ça, ça, ça. Et de l'autre côté, il y a quand même des gens qui disent « Bien, justement, parce que c'est un juge, bien, la Cour d'appel n'a pas voulu ordonner un nouveau procès pour pas qu'il y ait apparence de conflit d'intérêts. » Donc, forcément, dans l'imaginaire l'imaginaire collectif, le fait que Jacques Delisle a été un juge semble avoir eu un impact, mais lequel, c'est difficile de répondre à cette question-là.
Catherine Lamontagne, merci pour ce temps que tu nous as accordé. Puis on se fait une date, hein? Tu viens nous voir en studio à un moment donné pour qu'on prenne vraiment le temps d'avoir ton opinion sur ce dossier que tu as suivi durant 15 années. Moi, c'est un dossier qui m'a passionné là, en termes de bébite d'actualité. Ah oui, qui me passionne
par texto,
encore.
Tout ce qu'on se fait dire, c'est « moi, je suis pas sûr encore. Moi, j'ai encore des doutes. Ah, moi, je suis convaincu. Ah, »
Exactement. Merci. Fait que je te laisse organiser ça avec Pascal CV, Catherine, puis on se fait un moment en ondes, un bon 15 minutes où on va faire le tour de ce dossier-là au complet avec toi.
Avec grand plaisir.
Cool. Hey, merci. Bonne journée médiatique. Bon lancement de livre et félicitations pour ton excellent travail.
Merci à vous deux. Bonne journée.
Salut. Salut.
Les clips sont percutantes aussi cet entretien-là qui avait été fait avec la police, hein,
exactement.
Les enquêteurs dans le dossier il y a quelques années.
On vient justement de porter les accusations. Donc, il est dans la salle d'interrogatoire parce qu'on est allé le rechercher chez eux en lui disant « Toi, tu t'en viens à la cour. » Et là, ce que l'enquêteur en charge du dossier explique, c'est qu'il dit « Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il parle. » Normalement, c'est un juge. J'aurais dû dire « Hey, moi, je veux mon avocat. On s'en va régler ça devant un juge. » Mais non, Jacques Delisle, lui, il se met à jaser.
Rappelle-nous, on est en quelle année à ce moment-là?
À ce moment-là, c'est une bonne question. Il faudrait que je le retrouve. Je ne l'ai pas devant moi. Je vais le retrouver. Puis, écoute bien ça, Pascal, pour montrer à quel point le juge Delisle aimait parler et aimait se mettre au-dessus des autres. Écoute bien une des premières interventions qu'il va faire avec l'enquêteur.
On est en 2010.
Maintenant, je regardais... Excusez, monsieur. Ça me fait drôle de vous donner vos droits, savez-vous pourquoi? Parce que moi, je prends pour acquis que le droit, vous connaissez ça pas mal plus que la plupart des gens.
Vous, les enfants?
J'en ai deux.
Tiens pour acquis. To take for granted. Je tiens pour acquis. Tenir pour acquis.
C'est quoi que j'ai dit qu'il...
Je prends pour acquis.
OK.
Fait que tu vois, il se permet de reprendre
le français de l'enquêteur
sur son français.
Moi, ce que je
qui
vois...
est l'enquêteur Dave Dufour dans le dossier.
Moi, ce que je voyais là-dedans, quand j'ai écouté ça ce matin, c'est... pas le désir de reprendre l'enquêteur sur son français, c'est le désir de se positionner au-dessus de l'enquêteur.
Exactement.
Et de prendre le momentum pour leader la conversation. Oui. Asseoir un pouvoir quelconque.
En plein ça. Par la suite, l'interrogatoire continue et la première chose qui ressort chez Jacques Delisle, c'est qu'il a peur pour sa réputation.
Qu'est-ce que vous dites? Comment vous sentez de vous voir que c'est vous qui êtes dans le fait aujourd'hui?
Non, mais franchement, posez pas cette question-là. Là. Pensez pas que je saute au plafond et que je suis très heureux. Là. Imaginez-vous, là. Mais juste la réputation. Là. Imaginez-vous, juste la réputation. Moi, je n'ai rien à voir dans ce qui est arrivé à Nicole. Mais imaginez-vous tout ce qui va se dire à Québec. Voyez la manchette des journaux, un ex-juge de la Cour d'appel accusé du meurtre de son épouse. Demandez-moi pas qu'on lui enchevile, monsieur. Là. Ça peut-être ne pas paraître, mais à l'intérieur, là...
c'est immédiatement sa réputation à laquelle il pense. Je pense que ça vient avec le travail qu'il avait, le mode de vie. T'sais. Hey, je suis juge, tu sais, c'est big là, dans la société. Là.
Ben, je veux dire.
Là, je retombe.
Et rien contre les éboueurs, mais tu comprends que c'est quelque chose qui est un petit peu plus caché. Là. Tu sais pas trop qui vient ramasser tes poubelles au quotidien. Mais
oui, puis il
si
y a personne qui va se présenter et dire salut, moi, je suis éboueur. Tandis que si t'es juge, bonjour, je suis le juge de l'île.
Mais mon point est que même si j'étais éboueuse, j'aurais peur pour ma réputation.
Ben oui.
Mais là, si t'es rendu là, c'est qu'on a des doutes que ta réputation, exactement, c'est peut-être pas celle qu'on connaît.
C'est en plein ça. On est en 2010, Catherine Lamontagne nous l'a dit, en 2025. Là, c'est la sortie du livre. C'est en 2024 là, qu'il avait reconnu sa culpabilité. Mais en 2010, il va nier avoir tué sa femme.
Le jour, il faut les assumer. Le 12 novembre, là, je me trompe-tu que si je vous la donne, là, vous l'effaceriez cette journée-là? Vous l'effaceriez?
Oh, on n'avait pas, pardonne-moi, non. Il y a eu un problème dans l'extrait, mais bref, il va venir dire que il nie avoir tué sa femme, que c'est pas lui qui a tué sa femme. Donc, pourquoi, justement, il viendra oublier la journée fatidique du 12 novembre de la mort de sa femme? Et par la suite, il continue en mentionnant qu'il n'a aucun remords.
Je peux l'éliminer, là. Fait que la petite affaire qui manque, c'est juste l'aspect remords. Si vraiment, vous me dites, vous êtes point sans cœur, puis ce qui s'est passé ce matin-là, c'est vraiment une perte de contrôle. C'est momentané, c'est humain, ça arrive à tout le monde. Puis...
Il y a des remords. On a des remords quand on a commis quelque chose de pas correct, mais il n'y a pas de remords si on n'a rien à se reprocher.
Fait que tu vois, on n'a rien à se reprocher à ce moment-là. Chose particulière, puis je pense à ça là, rapidement, c'est que sa famille l'a toujours supporté. Son fils a toujours été derrière lui.
En majorité, oui. Il y a eu des moments où on a senti les choses sceptiques. Puis Catherine nous le dira, puis elle peut bien passer vendredi si on veut, puis on a un trou dans l'émission, c'est ce qu'elle m'a écrit. Mais tenir le cap dans cette histoire-là, quand ta mère n'est plus là pour témoigner, pour parler, doit être extrêmement difficile. Puis en cours, je veux te dire une affaire. Moi, ça m'est arrivé à deux moments là, de me rendre en salle quand il y a eu des revirements de situation, puis tout ça. Puis un de mes collègues très proches le suivait. tu viens... Non, tu te portes pas à... Mais tu viens mêler, là.
Ben oui.
Tu viens mêler, puis toi, en tant que journaliste, tu te dois d'être neutre. Puis à un moment, souvent, tu peux savoir où est-ce que va la cause, puis où est-ce que ça s'en va. Dans ce cas-ci, c'était très complexe parce que c'était parole d'expert contre parole d'expert aussi pendant de bons moments. Et les deux disaient des choses complètement
le contraire, exactement. Un qui disait que c'était impossible que la femme de Jacques Delisle était capable de prendre le pistolet dans l'angle qu'il était. Un autre qui disait que c'était possible. Alors, c'était là un peu la bataille d'experts. Puis dans le dernier extrait, vous pourrez là, aller le voir. Là, c'est disponible là, sur le site du Journal de Québec. C'est Jacques Delisle, ça m'avait surpris qu'il se dise hey, « Écoutez bien, moi, je me suiciderai pas. » Il amène ça de même. « Je me suiciderai pas, puis vous allez voir. » Ça va être le juge qui va trancher, puis il va trancher en ma faveur. Donc, tu sais, il était...
Il était souvent extrêmement dans ce qu'il allait proposer.
Exactement.
Ça sortait un peu nulle part.
Oui, puis très, très agressif là, envers l'enquêteur, là, évidemment. Alors, le livre sort aujourd'hui, Pascal, pour Catherine Lamontagne, sur l'histoire de Jacques Delisle. On va l'avoir en studio là, cette semaine pour qu'elle nous explique davantage toute cette épopée qui a marqué la ville de Québec pendant 15 ans.
Et le droit
ans.
Au complet.
Ah oui, le droit au complet, t'as tellement raison. Avec Jacques Larochelle, son avocat, qui a du verbe comme pas un. Réellement, c'était assez particulier.
Un spectacle d'avocat en soi, Jacques.
Ah oui, un spectacle d'avocat. Certain. J'ai déjà joué avec un de ses fils au hockey. J'allais chercher son fils dans sa grosse cabane d'avocat. Lui, il avait 6 ou 8 enfants, là, si je me rappelle bien.
Grosse famille.
Ah oui, très grosse famille. Un homme très, très, très occupé. Je vais t'avouer que je l'ai pas vu souvent à l'aréna, il était plus dans ses
au
causes
travail,
judiciaires. Oui, exactement. Après la pause, on vous rappelle comment faire pour contribuer à nos vœux de Noël et on va être également avec Lambert Drainville. On va revenir sur cette guerre ouverte-là des médecins là, avec le gouvernement. Et Lambert veut nous parler aussi de la visite de Mark Carney en Chine. Puis en Corée du Sud, Mark qui tente de se faire des nouveaux amis. Ouf, des nouveaux amis chinois. Ça aussi, c'est un autre rendez-vous qu'on va faire avec Gilles Levasseur lundi prochain.
Oh oui, puis vous le savez peut-être, vous l'avez peut-être vu passer, mais Trump a coupé l'herbe sous le pied de Carney parce que la Chine a confirmé que Xi Jinping rencontrait Trump en Corée du Sud et il y a même eu semi-entente là, avec Trump.
Quand on dit que ça brasse entre les États-Unis et le Canada, en voilà une autre preuve. Alors, restez avec nous après cette courte pause. Lambert Drainville à l'émission On en jase sur Boulevard 101.
On en jase jusqu'à 4.
Émission On en jase, 13h35 minutes. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1. Réagissez avec nous par texto 418-971-1021. Écoutez-nous via l'application Boulevard 102.1 sur App Store et Google Play Store. On est sur twitch.tv/blvd/FM et on est disponible sur la web radio blvd.fm. Pascal CV, ça brasse dans le domaine médical. On va en parler justement avec Lambert Drainville dans quelques instants. Mais une chose est sûre, ici même, à Charlebourg, on pourrait perdre une clinique très importante.
Enfin, on va la perdre. Assurément, on doit la relocaliser et ça fait énormément de bruit depuis ce matin. J'ose croire que là, il n'y a pas de parole politique parce que c'est sorti dans les médias puis les gens s'inquiètent. Si c'est ça, ben au moins, on a une prise de parole du premier ministre François Legault là-dessus. Il a été talonné par l'opposition libérale et on a promis de trouver un autre endroit pour relocaliser la clinique d'obstétrique et de gynécologie de Québec. On a annoncé sa fermeture là, pour le 31 mars prochain. C'est un énorme centre d'obstétrique et de gynécologie. C'est de la cité, là, si vous le connaissez ici à Québec. On suivait 1500 grossesses par année. Et là, on est forcé de quitter le local. Et on l'occupe depuis 15 ans en raison d'un projet de construction. Là, on doit le quitter. Donc, on a été contraint d'annoncer la fermeture. Et ça fait un an et demi qu'on est dans les négociations avec le CHU de Québec. Il faut savoir qu'il y a un dénoncement du financement octroyé par le gouvernement. Ça ne suffisait plus depuis plusieurs années. Même que vous les connaissez, les Trudel, qui travaillent à revitaliser le secteur, ont eu des conversations avec la clinique en disant « Nous autres, on va aller voir ce qu'on peut faire au niveau des baux. On va essayer de baisser le bail. On va essayer de... » Puis ils l'ont dit eux-mêmes, là, on a eu une extrêmement bonne collaboration de la part des Trudel. Mais malgré tout, avec le financement qu'on a, on est sous-financé. On n'est pas capable, malgré qu'un entrepreneur privé souhaite amuser les fonds nécessaires pour y rester, on n'est pas capable d'y rester. Donc là, exactement, ça crée un genre de vent de panique, on s'entend. Et on n'a pas indiqué encore s'il y a un endroit précis, tout ça, qui avait déjà été localisé à cet effet-là. Mais on a vraiment dit qu'on n'allait pas laisser les femmes être laissées pour compte de cette mauvaise gestion financière-là.
William Trudel sera en entrevue demain matin avec nous dans Marceau le matin aux alentours de 7h30. Ne manquez pas cette entrevue. On s'en va rejoindre immédiatement l'ambassade de Drainville qui a parlé justement avec plusieurs gens qui font partie du cabinet de la CAQ. Lambert, comment vas-tu?
Ça va bien, vous autres?
Ça va super bien. Lambert, comment on explique le tout là, au niveau de la CAQ? Parce que on s'entend, moi et toi, on défendait beaucoup le gouvernement. On trouvait que les médecins devraient aller s'asseoir à la table des négociations, mais là... Quelle loi matraque! J'ai de la misère à protéger le gouvernement avec ça. Moi, là.
Oui, ben on l'avait dit à peu près deux semaines, les médecins ne gagneraient pas. Gagneraient pas à ce niveau-là s'ils ne faisaient pas de concessions. Ils n'étaient pas prêts à regarder ne serait-ce que le concept d'indicateur de performance et de changer le mode de rémunération des médecins. Et bien honnêtement, ben là, ils se retrouvent un peu les culottes baissées avec une loi spéciale à travers la gorge. Et là, ils ne sont pas contents. Ils disent qu'ils veulent quitter. Il y a des médecins qui appliquent pour des permis de pratique en Ontario et au Nouveau-Brunswick. T'as même le premier ministre de l'Ontario tantôt qui a dit
oui.
Son sel 1-800-DOG-FORD. Je suis pas sûr que François
on va prendre soin de vous. Ouais, Doug, il fait un petit peu trop de vagues peut-être ces temps-ci avec Mark Carney et là François Legault.
Ouais, Doug Ford, c'est mine de rien, tu regardes les sondages de popularité au Canada, je pense que c'est un des premiers ministres dans le haut de la liste là, qui est très, très apprécié par sa gang. Fait que lui, c'est...
Hey, je fais une parenthèse, il va-tu aller remplacer Pierre Poilievre?
Je penserais pas. On est loin de ça. Au contraire, même les rapprochements entre le Parti libéral du Canada et M. Ford se sont beaucoup accentués là, dans les derniers mois, depuis l'élection. Mais pour revenir aux médecins, écoute, encore une fois, comme on s'est parlé souvent, là, au-delà de l'objectif, qui est un objectif, tu sais, que tout le monde va s'entendre là-dessus, là, d'abord de changer le mode de rémunération. Ça faisait longtemps que les gouvernements voulaient faire ça. Je pense que le gouvernement a raison de dire que s'il fallait attendre d'avoir l'accord des syndicats de médecins pour changer le mode de rémunération, on ne le changera jamais. Mais au-delà de l'objectif, encore une fois, d'augmenter l'accès à tous les Québécois à une équipe médicale d'ici 2027, ça aussi, tout le monde est d'accord avec ça, c'est la façon. Là, tu adoptes une loi en plein milieu de la nuit, sous baillon, puis tu es pris un petit peu à rétro-pédaler pour essayer de communiquer au fond qu'est-ce que ça va changer pour les gens, qu'est-ce que ça va changer pour les médecins. Alors que c'est tout quelque chose qui devrait se faire en amont, là, tu sais. Puis moi, je m'en suis rendu compte, écoute, en leur parlant au cabinet, en leur demandant des questions sur ce qu'on entend présentement. Puis il y a tellement de choses qui m'ont été clarifiées que je pensais pas.
C'est-tu ça qui nous manque, Lambert? C'est-tu vraiment ça qui nous manque, la clarification? Parce que le gouvernement martèle que, attendez, les médecins, là, vous pensez que c'est atroce comme projet de loi, ouais. Mais c'est pas si mal, on va avoir le temps de plus vous l'expliquer. Ou encore, les médecins, ils lisent le projet de loi et ont raison, ou encore, on peut comprendre un genre de, pas panique collective, là, mais mécontentement collectif.
Oui, première affaire, les salaires. T'sais, on lisait les articles, il y a des médecins qui vont perdre 50, 40 de leur salaire. Pensez-vous vraiment là, que le gouvernement serait allé jusque-là? C'est pas vrai qu'il y a des médecins qui vont perdre jusqu'à 50 de leur salaire. Les indicateurs de performance qui sont imposés par le gouvernement aux médecins avec la nouvelle loi, ça représente un maximum de 10 % de leur salaire.
Oui, mais à l'heure actuelle, avec les taux horaires, par exemple, du gouvernement, c'est là qu'on en perd plus du côté des médecins. Là. À tout le moins, c'est leur argumentaire.
Bien, les taux horaires, ils faisaient même pas partie du calcul. Là. Ils sont rajoutés là, maintenant. Ils deviennent une composante du calcul dans le salaire des médecins. Avant, c'était essentiellement payé à l'acte, là, à part quelques exceptions. Fait qu'on rajoute, au contraire, un taux horaire pour les médecins qui vont prendre le temps avec leurs patients. Fait que, tu sais, on entend les syndicats dire que c'est de la médecine fast-food. Tu sais, ça, c'est un spin qui a beaucoup pris. On va faire du gros volume, puis on va passer un patient après l'autre, puis on ne prendra pas le temps de s'asseoir puis de prendre le temps qu'il faut avec les patients. Tu sais, c'est le contraire de ce que la loi va faire, tu sais. L'enjeu premier qu'on avait présentement, c'est que tu avais des médecins qui billent, puis qui billent, puis qui billent, parce que c'est à l'acte. Fait que tu débarques dans le bureau du médecin, tu dis « Écoute, j'ai un problème au niveau de mes poumons, au niveau de ma gorge, et je me suis pété à la cheville. » Mais là, ils vont dire « Ah, ben là, pour ta cheville, il va falloir que tu reprennes un nouveau rendez-vous, puis que tu repasses. » Tu sais, ça, c'est l'enjeu qu'on avait, et c'est ça que le gouvernement veut changer. Alors, le nouveau modèle, il va privilégier la prise en charge collective, le travail d'équipe entre les médecins, puis comme je te disais, il va rajouter un tarif horaire qui va reconnaître justement le temps passé avec les personnes qui en ont le plus besoin. Fait que tu sais, ça, c'est un bel exemple de comme ce sera pas... L'objectif du projet de loi, c'est justement de mettre fin à ce phénomène-là du un bobo, un rendez-vous. Ouais. Je t'ai parlé du salaire. Tu sais, regarde, les indicateurs de performance aussi, là, tu sais, moi, j'étais comme tabarouette, voir les gens en moins de 90 minutes à l'urgence, alors que la moyenne nationale est présentement au-dessus de 5 heures. J'étais comme, il me semble, c'est assez haut, là, comme demande.
Mais, hein?
Mais c'est ça, je leur ai parlé, puis tu sais, ils m'ont dit, écoute, présentement, on est à 44 % des patients qui, quand ils vont à l'urgence, sont vus en 90 minutes
okay.
ou moins. Post-triage. Là, le premier palier que les médecins vont devoir atteindre au niveau de l'attente à l'urgence, c'est 50 %. Là, on est à 44 %. Fait qu'on aurait un 6 % de différence que les médecins vont devoir aller chercher.
Bien, tu sais, je reviens avec la question de Pascal. La problématique du gouvernement, c'est d'avoir fait une loi spéciale rapidement sous bâillon au lieu de faire un projet de loi en bonne et due forme, d'aller en commission parlementaire puis d'avoir le temps d'expliquer tout ça. Est-ce qu'on se trompe, moi, Pascal?
Non, absolument pas. Puis c'est l'essentiel de mon point. C'est de dire qu'il aurait dû faire un meilleur travail en amont pour expliquer ça, là, son poignet pour rembobiner le tape puis essayer de défaire les peurs des gens qui sont accentuées, effectivement,
remettre le dentifrice, par les créations de médecins. Remettre le dentifrice dans le tube.
Puis il y a beaucoup de médecins qui parlent.
C'est pas net. Vas-y, Pascal.
Il y a beaucoup de médecins qui parlent, puis j'ai comme posé 5 questions à 5 générations différentes de médecins qui étaient les mêmes puis qui n'étaient pas ensemble, donc ils répondaient vraiment de façon unique de leur côté. Puis ce qui ressort beaucoup, il y en a qui ont fait des calculs par rapport à leur salaire, il y en a qui baissaient à 55 000 par année avec bon, des déductions et tout ça. Puis on voit comme dans plusieurs métiers, il y a plusieurs façons de faire. Tu as des médecins qui sont vraiment là pour l'argent, tu en as qui sont là par vocation. Donc, ceux qui sont là par vocation, c'est incroyable comment eux parlent fort en ce moment, habituellement quand ils sont dans majorité silencieuse. Puis, il y a un spothead aussi très intéressant où il y a plein de médecins qui commencent à être un peu plus vocaux sur la façon dont ils font les choses puis comment ça les affecte, qui est un peu saisissant. Fait que si ça, mettons, ce qui évoque vient en fait de factuel, Donc, leurs calculs, mettons, sont bons par rapport à la loi.
Non, c'est ça qu'il faut. Là, là, tout le monde fait ses calculs de son bord. Écoute, là, je sais pas
c'est si peut-être ça l'erreur,
la
en fait.
Mathématique, là, pour calculer, la... tu sais, tout le monde fait ses affaires de son bord. Il n'y a aucune personne qui est capable présentement, avec certitude, de savoir quel pourcentage de son salaire va baisser. Puis quand je dis que le gouvernement aurait dû préparer quelque chose, aurait pu mettre en place une plateforme sur le site web, un site web où ce que les médecins auraient pu aller inscrire leur nombre d'heures qu'ils ont fait l'an passé, le nombre de patients qu'ils ont vus, etc.
Ça aurait peut-être apaisé.
Ben oui, puis là, il aurait pu avoir une réponse claire, à peu près une marge sur, bon, mais ben combien? Puis la vérité, c'est qu'il y a des médecins qui vont perdre, effectivement, 2, 3, 4, 5, 6 % du salaire. L'autre vérité, c'est que l'enveloppe pour la rémunération des médecins est gelée jusqu'en 2028 à 9 milliards. Fait que c'est sûr que dans une perspective de pouvoir d'achat, considérant que leur salaire va rester gelé jusqu'en 2028, mais que le coût de la vie va continuer d'augmenter, oui, les médecins vont perdre au niveau aussi de leur pouvoir d'achat. Mais il y en a qui vont gagner. Ceux qui ont suffisamment de patients par année, qui travaillent plus que 200-220 jours par année, qui prennent en charge des populations qui sont déjà vulnérables, ils vont gagner de l'argent avec ce projet de loi-là. Ceux qui vont perdre, bien, c'est les médecins, comme je te disais, qui billent, puis qui billent, puis qui billent, qui n'ont pas nécessairement de patients, de beaucoup de patients inscrits, mais qui billent des actes, puis des actes pour avoir des salaires, des fois, qui se rapprochent du million par année. C'est ceux-là qui vont perdre. Fait que c'est sûr que c'est un gros changement, puis avec tout gros changement, ça vient avec ça accroche, puis ça vient avec une adaptation qui n'est pas nécessairement facile quand tu essaies de faire des gros changements comme ça. Puis c'est pas la première fois qu'un gouvernement passe par loi spéciale. Moi, je pense, comme je te dis, qu'il y aurait eu le temps de mieux faire les choses.
Pourquoi ils l'ont pas fait?
Parce que c'est fait. Ça a été fait dans le passé. Puis...
De la part d'un gouvernement qui ça fait plusieurs années là, qui est au pouvoir, la part de François Legault, qui a quand même un CV politique qui est existant, qui a traversé des crises, qui voulait refaire une beauté, tiens, à la santé, chose que bien des partis politiques ont tenté, puis qui savaient que c'était extrêmement difficile à chaque fois que tu envoies un ministre de la Santé faire un genre de travail de construction, tiens, sur la santé, que ce soit Gaétan Barrette, ou pas, ça a été difficile. C'est assurément un projet qui est constamment attendu avec un 2 par 4, prêt à fesser en arrière de la tête d'un ministre. Jusqu'à maintenant, Christian Dubé avait été épargné des mauvaises langues. On faisait confiance à Christian Dubé pour une raison qui était quand même spectaculaire, de voir un ministre de la Santé qui est épargné, de se faire fesser dessus à chaque jour. Il y avait un espoir, en fait, de faire avancer cette façon de faire en santé pour la suite des choses. Mais là, vient qu'on sort à la va-vite avec un projet de loi comme celui-là. Je comprends pas la stratégie politique derrière. Officiellement, ils ont scrappé le genre de statu quo qu'on avait au départ face à Christian Dubé et les changements qu'on voulait faire, non? On s'est pas tiré dans le pied?
Ben non, au contraire. Eux autres, c'est sûr que ça fait partie de leur stratégie. Comme on parlait, quand ils ont défait leur discours d'ouverture, ils ont identifié certains adversaires. On parlait des syndicats, incluant évidemment les syndicats de médecins. Ils ont identifié les islamistes radicaux. Ils ont identifié tout ce qui est loi et l'ordre. Tu sais... Ironiquement, d'ailleurs, ils coupent des budgets à la Sûreté du Québec.
Ouais, c'est ça.
Mais je parle pas de refaire la santé, de faire une refonte de la santé, pas du tout ça. N'importe quel gouvernement en place va devoir se mettre les deux mains là-dedans.
Ils le font tous, hein? Il n'y a pas de recette magique.
Mais
là.
Pourquoi avoir sorti le projet de loi quand on dit qu'il faut l'expliquer et qu'il est mal compris en ce moment aussi vite, sensible?
Bien, parce que tu as des étudiants qui, présentement, sont en train de manquer le bateau pour la suite de leur parcours académique, puis de pouvoir, après ça, rentrer dans le réseau pour porter un coup de main aux différentes cliniques, aux différents hôpitaux.
Mais les dommages collatéraux actuels ne sont pas plus lourds que ceux, par exemple, des étudiants qui auraient pu venir si on avait pris un petit peu plus de temps? C'est une question qu'on se pose collectivement.
Mais non, il y a 1000 médecins. Là. On parle de 1000 médecins là, qui sont sur le bord de ne pas pouvoir continuer leur stage, de ne pas pouvoir aller faire leur externat, puis de après ça, pouvoir pratiquer. C'est vraiment, vraiment beaucoup de monde. Ça aurait fait énormément mal. Puis l'autre élément, Pascal, c'est que les élections sont en octobre. Puis si tu veux avoir le projet de loi rentre en fonction le 1er janvier, puis si tu veux avoir des indicateurs déjà qui vont dans le bon sens rendus au mois d'octobre, bien, le plus vite que tu le fais, le plus tôt tu peux espérer avoir des résultats.
Ta première raison, je comprends un peu plus pourquoi y aller là. La deuxième, je la trouve plate. Elle était électoraliste pour moi. Puis c'est sûr que c'est comme ça que ça fonctionne la politique, mais je veux dire, là, en ce moment, c'est quand même un gros branle-bas de combat.
Oui, elle est électoraliste, mais en même temps, moi, ce que je trouve aussi électoraliste, c'est les autres gouvernements, par exemple le Parti libéral, qui ont essayé de pas... qui disent qu'ils scraperaient la loi... alors qu'eux-mêmes ont déjà essayé, à travers, tu parlais de Gaétan Barrette, de changer la façon dont les médecins sont payés au Québec. Puis là, quand un gouvernement, finalement, dit, bien, regarde, nous autres, au Yob, si on attend à ce que les syndicats soient d'accord, les syndicats de médecins, bien, c'est pas compliqué, on va attendre à vitam aeternam. Il n'y en aura jamais de réforme du mode de rémunération si on attend que les syndicats sont d'accord. Fait que nous autres, on va de l'avant pour le meilleur et pour le pire. Puis malheureusement, encore une fois, c'est une question de pédagogie. Puis là, il y a tellement d'éléments qui sont pas clairs dans le projet de loi, un projet de loi qui va plus loin encore que ça à quoi on s'attendait, que là, ils sont pognés à rétro-pédaler, ils sont pognés à rectifier plusieurs éléments. On a parlé du salaire, on a parlé des indicateurs de la performance, on a parlé des impacts que ça va avoir sur les femmes, les pénalités aussi, tu sais. Moi, tu lis le projet de loi, puis tu dis, tabarouette, le ministre va mettre en place des surveillants dans toutes les régions, dans tous les milieux de soins, pour surveiller la cadence des médecins.
Les délateurs!
Il va avoir des délateurs. Ça, il me semble, ça va loin pas mal, là, oui. La gang. Là.
En effet, ça va très, très, très loin, ce projet de loi-là. Lambert, il faut qu'on termine cette excellente chronique, encore une fois, de ta part, parce qu'on doit terminer dans le positif avec nos vœux de Noël pour le Centre pédiatrique du CHU de Québec. Je te remercie infiniment. Vendredi, Farnell n'est pas là, fait qu'on se fait un petit rendez-vous, un petit trio, moi, toi, Pascal, CV, à midi, vendredi, pour... la deuxième chronique de la semaine de Lambert Drinville.
Je peux te finir juste ben la oui, dernière vas-y. Affaire. Là, je parlais de quoi je parlais déjà?
tu parlais de plein d'affaires qui vont trop loin, comme la délation.
De la surveillance, tout ça.
Oui.
Mais là, ils m'ont dit, c'est un levier que le ministre se donne, au fond. Ouais. Ce ne sera pas comme ça partout. Ils disent, si on a une situation dans un hôpital où tu as des médecins qui commencent à faire une mutinerie, à se mettre ensemble puis à vouloir ralentir le réseau pour faire pression sur le gouvernement, c'est là que le gouvernement peut agir. Mais ce ne sera pas un système mis en place partout dans toutes les régions en tout temps. Là. C'est vraiment à la discrétion du ministre. Puis comme le ministre l'a dit aujourd'hui, présentement, il n'y en aura pas de pénalité, il n'y en aura pas de répercussions. Il n'y en aura pas de surveillance pour l'instant. C'est des moyens que le ministre s'est donné.
Yes! Merci beaucoup, Lambert Drinville. On se reparle vendredi.
Salut!
Salut! À vendredi. Pascal CV, avant de parler des vœux de Noël, comment qu'on fait pour appeler, avoir notre publicité, contribuer au Centre pédiatrique de Québec, du CHU de Québec. Écoute bien ça.
The 19th in Yamamoto. There's a fly ball to deep left center field. Headed back there. It is gone! Brad Jr. gives the Jays the lead.
C'est 2-2 dans la série, Pascal.
Yes.
Les Jays ont gagné 6-2 hier. Vlad Guerrero est devenu le joueur avec le plus grand nombre de coups sûrs dans l'histoire des Jays en série et avec le plus grand nombre de coups de circuit avec son 7e hier. 5e match ce soir entre les Jays et les Dodgers. Et la série va se transporter à Toronto vendredi soir. Les matchs sont toujours à 20h.
20h. Alors, 20h ce soir, 20h vendredi.
Tous les matchs de la série mondiale sont à 20h. Pascal, est-ce que tu peux nous rappeler à nos entrepreneurs qui veulent contribuer justement aux soins palliatifs pour les enfants du Centre Mère Enfant Soleil du CHU de Québec? Comment qu'on fait pour participer à cette belle journée des vœux de Noël, là, de la communication?
Avec bonheur au 418-682-8420 et les numéros sont sur nos pages Facebook. Vous pouvez les trouver sur nos pages Facebook aussi, en solo, là, en fait personnel. Puis s'il y a quoi que ce soit, allez sur Twitch, il y a des bannières. Donc le numéro, pas besoin de le retenir nécessairement, mais ce que vous avez à retenir, c'est qu'aujourd'hui, on a un pourcentage de rabais très élevé, autour de 500-600 $ pour 30 messages publicitaires sur nos ondes à Boulevard 102.1. C'est le meilleur prix de l'année. Ce n'est qu'aujourd'hui que vous pouvez réserver votre campagne. Là, on ne parle pas de choisir votre message et tout. Non, non. Faites juste réserver votre campagne aujourd'hui parce qu'il y a une partie de toutes les ventes de cette journée-là qui vont être remises au Centre Mère-Enfant Soleil du CHU de Québec. Ça veut dire qu'on vient en aide aux enfants malades et leurs familles sur tout ce que la RAMQ ne couvre pas. T'as un enfant malade, puis tu dis crime à l'hôpital, c'est froid, il y a un lit pour mon enfant, je suis sur la chaise à côté, je suis en train de le perdre littéralement, là. On est en soins palliatifs. Puis t'entends des gens arriver en disant, ben nous, on a réussi à acheter des lits extensibles humano. Mais ça, c'est avec, entre autres, le 685 000 $ que Leclerc Communication a remis à l'équipe de la docteure Julie Laflamme et Maryse Frenette au courant des dernières années grâce à votre implication.
C'est extraordinaire.
Ça veut dire que des parents vont dormir collés avec leurs enfants pour les derniers jours de leur vie parce qui n'ont pas le choix d'être à l'hôpital, mais on essaie de faire ça comme s'ils étaient à la maison. Donc, être bienveillant, être collé, être ensemble, c'est les dernières minutes avec leurs enfants. Avec ces sous-là aussi, on a des soins de massothérapie. Ça veut dire que si votre enfant ou l'enfant souffre de son corps, il ne va pas en souffrir. Cette fois-ci, il va apprendre en ayant plaisir que quelqu'un abrège justement les endroits où ça lui fait mal par un soin de massothérapie, l'art-thérapie, des ateliers de sculpture, photographie professionnelle, parce que des enfants qui se demandent s'ils vont être oubliés pour la suite, des trousses de confort, les cérémonies commémoratives qui sont super importantes aussi. Puis le projet de cette année, c'est la bucket list. Donc, en plus de ça, cette année, il y a une partie de l'argent qui sera recueillie pendant la journée de vœux de Noël qui va servir à réaliser les rêves de la bucket list des enfants qui sont suivis aux soins palliatifs pédiatriques. Entre autres, il y en a un rêve qu'on a réalisé avec,
oui, avec Jaylan,
qu'on vous a présenté en début d'émission. C'était de faire une exposition avec tous ses dessins de robots. Il adore dessiner. Donc, vous servez à ce qui est le plus humain possible sur la chaîne humaine là, ouais, de notre région de Québec. Là, ben, c'est à ça que vous contribuez. Vous êtes en entreprise, vous êtes un employé d'un entrepreneur, puis vous dites « OK, moi, j'écoute Boulevard, mais là, c'est aujourd'hui qu'on contribue. » C'est rien. Vous avez un budget marketing, c'est sûr, pour vous annoncer annuellement.
Clairement.
Prenez quelques centaines de dollars pour appeler au 88-682-8080.
C'est jamais aussi bien dit, Pascal CV, Julie d'ailleurs, qui nous mentionne. C'est très touchant, votre pub des vœux de Noël. Écoutez Gravel dans le retour, qui s'en vient l'instant même avec Denis, Audrey et Véro. On continue cette belle journée festive pour le Claire Communication au profit du Centre Mère Enfant Soleil du CHU de Québec. Nous, on se reparle demain midi. Bonne fin de journée, guys!
Salut!
On en jase.